divisés par les champs. À la belle des églises, Marseillais.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 juillet 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 6 juillet dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Tatakoi, qu'est-ce que c'est cette musique?
Ah,
je vous le donne en mille. Vous ne devinerez pas, Victoria. Nikeya.
Je ne cherche même pas.
Nikeya. Je l'appelais Nikeya maintenant.
Nikeya. Qu'est-ce que ça veut dire?
Victoire en grec.
Ah, très bien. Nikeya.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je vais vous le dire. J'ai découvert récemment que cette musique qui sert de générique à cette émission depuis 12 ans maintenant, était un des chants du corps expéditionnaire de l'armée impériale russe en 1916 en France. Enfin, sur le front où on mettait la pâtée aux Allemands. Un jour, puis on prenait la pâtée le lendemain, en gros. Mais, donc il y avait un corps expéditionnaire russe, et il y a un cimetière que je connaissais bien, qui est le cimetière de Saint-Hilaire-le-Grand à Mourmelon. Et tous les ans, il y a une cérémonie. Là, il y a eu une cérémonie il y a quelques jours, et à cette occasion, j'ai découvert que cette musique était le chant, et ce chant était chanté. Vous l'entendez là par des jeunes scouts et guides russes, par des vitiazes, et puis par les familles qui étaient là. Voilà. C'est pour ça qu'on entend les enfants qui jouent autour. C'est très famille. Voilà, c'est une forme d'hommage. Et puis comment on va passer une soirée très slave? Eh bien, je pensais que c'était une façon amusante gentille, émouvante de commencer cette émission. Puis de rappeler que, quand même, du temps de notre empereur, les Russes se battaient à nos côtés.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
Rien, je reçois un message qui me plaît beaucoup, alors je vais vous le lire.
Faites
un message d'auditeur. À propos du défilé prévu des pédérastes et des gouines à Rome, j'ai bien aimé le slogan des Italiens normands qui ont manifesté contre cette saleté. Le Colisée pour les gays, oui, mais avec les lions. Il faut rappeler à ce sujet qu'en vertu des accords de Latran, Rome était ville sainte. De ce fait, toute manifestation et tout affichage équivoque était interdit. Cela a changé en 1983 lorsque Jean-Paul II a autorisé n'importe quel chien-lit par un accord avec les F3M3 du gouvernement italien.
Qu'est-ce que ça
Son opposition actuelle est donc pure hypocrisie. Voilà.
Très bien.
L'émission commence.
Sauf qu'il y a des mots qui sont inutiles, quoi. Voilà. Bon, c'est bien. Donc, on est contre, alors.
Je ne sais pas. Moi, j'ai eu le message, mais je ne comprends rien. Quand je lis, c'est bien que...
c'est bien. Oui, la Gay Pride, c'est plus pathétique qu'autre chose, quoi.
C'est vrai que c'est pathétique.
C'est pathétique, quoi. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire. Moi, j'attends qu'on fasse la même chose avec les coprophages. Ça va être joli, un défilé de coprophages dans Paris, non?
Berk.
Si on fait toutes les perversions... Enfin, voilà. Bon, alors donc, je reçois ce soir... Tiens, voilà le docteur Dor. Bonsoir, docteur. Mais je croyais que vous ne vinciez pas.
Mais parlez dans votre micro.
J'avais rectifié le...
Non, mais...
Écoutez, alors, je suis un peu confus.
Mais non, mais j'ai grand plaisir.
Maître Mainvielle doit venir aussi.
J'attendais Maître Mainvielle, mais vous viendrez tous les deux.
Alors, finalement...
Deux docteurs, un docteur en droit, un docteur en médecine.
C'est ça.
Donc, voilà, le docteur Dor est là, le docteur Raffard de Brienne est là aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas vous donner du docteur, hein.
En Italie, je suis plutôt professeur.
Professeur, hein. Professeur Raffard de Brienne.
Docteur, c'est quand on veut...
Et commendator Michel Blanzard. Si vous vous mettez à 4 mètres du micro, vous ne pourrez jamais parler. D'abord, vous n'êtes pas à votre place, mais on en réglera ça plus tard. Okay. Mais, non, parlez dans le micro, vraiment, Michel. On ne vous entend pas. Si vous ne parlez pas dans le micro, c'est comme si vous n'étiez pas venu. Vous pouvez dire bonsoir, par exemple. Ça se fait couramment. Oui, mais le micro a aussi besoin. Voilà, c'est ça. Donc, quand je pense qu'il va falloir passer 3 heures avec lui.
Soutenez-le, remontez.
Donc, les sujets de ce soir. Bien, on va parler de l'ostentation. Je vais le faire exprès maintenant, vous allez avoir force de le dire pour rire. Non, de l'ostention du sanctuaire.
Il paraît qu'on ne trouve pas le mot ostension dans le dictionnaire.
Eh bien, on va le faire ajouter. Comme on va avoir bientôt des... On a déjà un académicien français. Mais on en a plusieurs, mais enfin, on en a un qui est à la radio toutes les semaines. On pourrait lui demander de faire une proposition.
À ce sujet.
Quand ils en seront au haut. À mon avis, quand ils en seront haut, je serai déjà plus en âge d'être académicien français, moi, c'est vous dire. Mais j'ai mes chances. Parce que bientôt, il suffira de savoir lire et écrire pour être académicien. Donc, comme j'ai appris, on parlera donc de ça, de l'ostension du Saint-Suaire à Rome. On parlera naturellement des commandos anti-avortement, mon cher docteur, j'ai le grand regret de vous le dire. C'est la seule violence qui subsiste. On peut faire absolument n'importe quoi dans ce pays. Dans notre pays, pardon. Ne téléphonez pas pour dire on dit pas dans ce pays.
Ce sont des sauvageons seulement.
Dans notre pays. Vous pouvez, par exemple, si vous réunissez pour fêter la victoire de l'équipe de France en football, et que vous cassez 30 vitrines, que vous brûlez 50 voitures, que vous blessez 52 flics, dont un grièvement.
Ne grossissez pas les choses.
52 policiers blessés, dont un grièvement.
Oh, Ah, ça a augmenté depuis.
Non, c'est les journaux. Vous me direz que les journaux, c'est pas une preuve. Enfin, bon, moi, c'est ma seule source d'information.
C'était à la radio, c'était des quelques petits incidents.
Ah ben voilà, c'est ça.
Avec non, mais seulement 16...
Alors ça, c'est une façon un peu excessive de manifester leur joie d'avoir gagné. Avec des drapeaux algériens et marocains, d'ailleurs. Moi, j'avais pas vu que l'Algérie et le Maroc avaient gagné la Coupe du Monde. La Coupe d'Europe.
La Coupe d'Europe.
Voilà. D'ailleurs, la France non plus, hein, entre nous. Mais voilà, ça c'est pas grave du tout. Mais vous, quand vous allez prier devant un avortoir, vous vous rendez compte.
C'est un commando.
C'est des méthodes de commando. C'est...
Et alors, je vous annonce que nous serons avec un prélat américain. Enfin, je dirais.
Ah, ça y est, fait appel à l'armée américaine.
Et en plus, il mondialise.
Ouais, alors, les gendarmes du monde.
Un prélat de sa sainteté, Monseigneur Philippe Rayet.
Eh ben, nous voilà.
New-Yorkais.
Yankee go home. Et puis, avec.
Ils sont prévenus.
Non, mais ils ont bien raison de venir pour ça. Voilà. Et puis, nous causerons également d'un sujet qui peut vous paraître bizarre, mais avec Michel Blanza, tout est bizarre, parce que il m'a bien fait faire, je sais pas, au moins 40 numéros du Libre Journal sur la Serbie. Et puis,
pas plus. 30,
rien.
Vous grossissez, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, ma femme dit ça aussi, que je grossis pas mal. Et donc, quand il en a eu assez de la Serbie, voilà qu'il m'a collé la Bulgarie. Alors maintenant, on parle de la Bulgarie. Mais... je dois dire que c'est intéressant et on va vous en asséner la preuve. On va parler longuement de la Bulgarie, pas uniquement par rapport à la Bulgarie, mais par rapport à l'enseignement qu'on peut en tirer en tant que Français. Mmh. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Oui, je vais vous parler d'ailleurs tout de suite, sans désemparer de l'université d'été de Renaissance catholique, parce que c'est des gens qui ont la gentillesse de m'inviter, faire comme si j'avais quelque chose à dire. Tous les ans, ils m'invitent.
Bon, mais il y a beaucoup de gens qui vous invitent.
Oui, c'est ça. Une fois en général. Après, quand on dit que Renaissance catholique est récidive, c'est incroyable, c'est des entêtés. Et donc, cette année, les conférences sont consacrées à un sujet qui est particulièrement intéressant, et qui est le 21e siècle, sera-t-il musulman ? Par référence, naturellement, à la phrase apocryphe de Malraux, le 21e siècle sera... religieux, spirituel, ou ne sera pas. Voilà. Donc le 21e siècle sera-t-il musulman ? Sous la coordination de Michel de Gégère, et les sujets traités seront... Alors c'est assez conflit quand même, je pense qu'on ne va pas dire des choses courantes ou convenues. Avons-nous le même Dieu que les musulmans ? C'est une conférence de Max Cabantou. La conquête de l'Afrique du Nord par Bernard Lugan. La sublime porte... à la conquête de l'Europe, par Philippe Conrad. Ça, c'est un sujet qui devrait intéresser Michel Blanza, puisqu'on va causer de la Turquie. Droit musulman et morale de l'islam, par Anne-Marie Delcambre. Les martyrs chrétiens de l'islam, par Antoine Assaf. Charles de Foucault, par Pierre Darnac. Vous savez que Pierre Darnac est l'auteur d'une très, très, très intéressante histoire de l'Église, 2000 ans d'histoire de l'Église. Vous l'avez lu, docteur Dor, le livre de Pierre Darnac?
Et c'est pas son nom.
Ah bon, c'est pas son nom.
Non, c'est...
Ah, je confonds avec Laurent Touchard.
Oui.
Voilà.
Mais il se ressemble beaucoup.
Mais c'est pour ça.
J'ai suggéré à l'un d'eux de raser sa barbe pour qu'on les reconnaisse mieux.
Ah, voilà, une bonne idée. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, voilà pourquoi je les confonds, c'est qu'ils se ressemblent, cette idée.
Ah, voilà.
Alors, donc, il parlera de Charles de Foucault, et ce sera certainement très intéressant aussi. Charles de Foucault, c'est intéressant parce que il avait dit en 1910, ou en 1912, je crois, il faut en faire des chrétiens, ça nous chasseront. Avant 50 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé, presque à date fixe.
Oui, presque.
Une conférence de Paul Lambert, la menace islamique dans la France d'aujourd'hui. Une conférence de Vladimir Volkov, l'Amérique au service de l'islam. Islam et chrétienté de Jean-Pierre Maugendre et un témoignage d'un converti. Ça, c'est quand même, ça peut être vraiment intéressant. Puis alors, je me cite, tant pis, je ferai un petit topo sur islam et subversion, dans lequel je dirai des choses extrêmement incorrectes politiquement, et qui ne plairont pas à tout le monde, mais si vous voulez, on ne peut pas faire plaisir au meunier, à son fils et à son âne. Ça se déroule du 13 juillet à 11h au 16 juillet à 17h. Et ça se passe à Urigny. Alors Urigny, c'est à quelques kilomètres de Mâcon. Et c'est donc un endroit, mon cher Daniel Raffard de Brienne, où on ne risque pas de mourir de soif.
Certes, voilà. Nous y avons bu ensemble, si je ne
me trompe pas. Nous y bûmes de conserve. Nous y bûmes de conserve.
Dans le même genre de circonstances.
C'est à 400 km de Paris, mais par le Teugve, c'est à 1h40, si bien entendu on ne déraille pas. Parce que là, on ne sait jamais.
Oui.
4 heures de Lille. C'est direct de Lille.
Oui.
Voilà. Et alors, pour tous les renseignements, téléphone 01 46 62 97 04. Ça se passe dans un cadre absolument charmant. Vous étiez venu aussi, docteur, vous, à Irigny.
Oh, mais plusieurs fois.
Voilà.
Et l'accueil est vraiment charmant.
C'est superbe. C'est un endroit merveilleux. On est vraiment en famille. Il y a des jeunes gens beaux et intelligents. Des jeunes filles aussi, d'ailleurs, belles et intelligentes. Et d'ailleurs, souvent, on a des mariages. Il y en a même qui, après, reviennent en nous annonçant qu'ils ont... C'est très drôle, parce que une année, on les voit faire connaissance. L'année suivante, on apprend qu'ils sont mariés. L'année d'après, on voit arriver la jeune femme dans une position intéressante, comme on disait dans le temps. Et puis, l'année suivante, ça pousse une poussette. Et en général, c'est parti. Tous les ans, il y a une poussette de plus. Ouais, c'est... Vous avez remarqué ça aussi ? C'est bien, c'est bien.
Dans 20 ans, ils s'inscriront.
Ben c'est pour ça que je pense que Gégère calcule
déjà. On recrute comme ça.
Hein. Ben alors, à l'intérieur du mouvement. Voilà, les prix sont de, pardon, environ 700 francs pour le moins cher et 1400 francs pour le plus cher. Selon que vous voulez, pardon, simplement assister aux conférences ou aller dans un hôtel de grand luxe de 2 étoiles. Avec petit déjeuner, des choses formidables, quoi. Enfin, voilà. Voulez-vous nous parler?
Est-ce que je peux vous lire deux petits messages de
l'auditeur
qui vous félicitent, cher Serge, parce que vous aviez prévu il y a plusieurs semaines que M. Rezala, s'il rentrait un jour en France, ce serait les pieds devant.
Et ben voilà.
Et puis.
Appelez-moi Madame Soleil.
Une auditrice serbe vous dit que lorsqu'elle était petite, Tito avait repris le chant des partisans blancs pour en faire un chant antifasciste.
Et tout le monde l'a pris, ce chant. C'était
c'est
d'abord.
C'est beau d'abord.
Ça a été le chant des partisans. Il a été chanté par les troupes de Trotsky. Il a été chanté par les troupes de Denikin. Il a été chanté par les armées russes. Il a été chanté par le corps expéditionnaire français. Et j'en ai même une version chantée par le chœur populaire de la Commune de Paris. Qui est, c'est pas pendant la Commune, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de disques de l'époque, mais un chœur qui s'appelait, un truc monté par les communistes, ou je ne sais qui s'appelait les chœurs populaires de la Commune de Paris, et qui est très intéressant, je vous le ferai écouter un jour. D'autres choses, non ?
Si, des regrets. Ah. Le régime en place soviéto-inique aurait-il eu la peau de Serge de Beketch ? Nous n'avons plus la revue de presse rageuse qui faisait le bonheur du mercredi soir. Allons, courage.
Non, mais il n'y a plus rien à dire en ce moment, c'est ça. Moi, je veux bien me mettre en colère pour vous faire plaisir, mais franchement, il n'y a plus le... Comment voulez-vous vous mettre en colère ?
D'abord, c'est l'été, c'est la trêve.
D'abord, il fait chaud, et puis en plus, qu'est-ce qui pourrait nous mettre en colère maintenant ? Je dois dire que moi, je suis complètement ravi. Quand je vois, par exemple, quand je vois ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées à la suite de la victoire des Bleus, d'ailleurs, vous savez une chose, c'est que vous savez qu'il y avait deux équipes qui avaient les mêmes couleurs. Il y avait les blues, les Français, qui étaient les bleus, et l'équipe italienne, qui était gli azzurri, les bleus, ce qui veut dire les bleus en français. Hein?
Oui,
vous saviez
oui.
ça?
Azur.
Et finalement, contre toutes les règles, ce sont les Français qui recevaient, enfin, qui étaient plus exactement, qui étaient l'équipe dominante, je dirais, puisque champion du monde. C'est eux qui ont gardé leur bleu. Ce sont les Italiens qui se sont mis en blanc. Vous savez pourquoi ?
Non, mais vous allez nous le dire.
Mais vous n'imaginez pas quand même tous les commentateurs de télévision expliquer pendant toute la soirée que c'était l'équipe des Blancs qui était l'équipe de France. Parce que l'image démentait le propos. Tandis qu'avec les Italiens, ça marchait parfaitement. Alors quand j'ai vu après toute cette belle jeunesse se réunir sur les Champs-Élysées pour célébrer la chance pour la France... Et enfin vraiment l'espèce de melting pot extraordinaire, d'exemple d'intégration.
Vous
et ces jeunes gens.
Jamais assimilation, vous non plus.
Hein? Ouais, mais c'est la même chose. Me fais
non,
pas.
Non,
mais
non,
si.
Non,
mais,
non.
Alors je vous montrerai. Mon ami Chabanis l'autre jour m'a montré le dictionnaire Larousse 1923, dans lequel il est dit de la façon la plus évidente que c'est la même chose. Mais si vous voulez qu'on se bagarre sur le vocabulaire, moi je suis tout à fait d'accord. On peut y passer la soirée.
Je sais
donc,
de vous exciter.
Assimilation, mais... intégration, ce que vous voulez. Moi, je ne vois qu'une méthode d'intégration et je ne dirai pas laquelle. parce que ça va comme ça.
Ah ben celle de Foucault.
Oui, il y en a une autre.
Qui pensait,
non, c'est pas celle-là. Je pensais, moi, je pensais à quelque chose de plus, comment dirais-je,
radical.
Voilà, c'est ça, c'est le mot. Et donc, je me dis que quand je voyais toute cette foule de jeunes gens qui réunis pour célébrer l'intégration ou l'assimilation ou tout ce que vous voulez, qui s'assimilent et qui s'intègrent en brûlant des voitures, en cassant les vitrines, tout ça sous des drapeaux marocains et algériens, je trouve que c'est sympathique. Parce que comme ça, les crétins qui n'ont pas encore compris, ils vont peut-être finalement comprendre quelque chose. Non, vous ne croyez pas ?
Non, je ne crois pas.
Je ne crois pas.
Que, non. Il n'est pire aveugle que celui,
qui ne veut pas avoir. Et puis surtout qu'ils sont informés. Est-ce que vous avez vu dans un seul journal la moindre allusion, je vous donne la parole tout de suite, Daniel, la moindre allusion à la personnalité du jeune homme de 14 ans et demi? On a dit que c'était un adolescent, un collégien, un jeune homme qui a violé plusieurs femmes, qui a été arrêté après avoir violé plusieurs femmes dans des ascenseurs, chez elles, dans des parkings, etc. Et on vous a dit que c'était un Montpellier, hein. Vous n'avez pas vu cette histoire ?
Je l'ai entendu vaguement.
Un Montpelliérain d'appellation non contrôlée, comme dirait quelqu'un que j'aime bien. Et je ne savais pas qu'à Montpellier, le soleil était aussi fort que ça. Hein ? Vraiment, il a pris un coup de soleil terrible. Voilà.
De toute façon.
Donc si vous croyez encore ce que vous lisez dans les journaux, on ne peut plus rien pour vous. Daniel Affard.
Un chrétien qui applique ses propres principes. D'autre part, le christianisme, originaire du Moyen-Orient, a-t-il quelque chose à voir avec notre identité culturelle occidentale ?
Vial, sort de ton trou, je t'ai reconnu.
Notre identité génétique nordique, et avec le nécessaire rassemblement de nos populations autour de la défense de notre race et de notre culture.
Quoi d'autre ?
Accepteriez-vous des millions d'immigrés non européens s'ils se
C'est effrayant.
Je jure que je n'ai rien vu avant de venir, mais la chaleur monte. Donc, accepteriez-vous des millions d'immigrés non européens s'ils se convertissaient au christianisme, comme vous semblez le suggérer?
Mais pas du tout, mais ils ont des pays, mais il faut qu'ils soient chrétiens dans leur pays, voilà, c'est très bien.
Ah oui.
L'Afrique n'a pas assez de chrétiens.
Bien sûr,
c'est pas... Hein? C'est tout.
On peut se convertir partout, bien sûr.
Mais bien sûr, je ne suis pas obligé de venir se convertir.
C'est même le but de l'Église. La mission de l'Église.
On leur envoie des prêtres s'ils veulent pour les convertir, c'est pas compliqué, on ne peut pas être plus aimable.
Vos propos anti-jeunes sont inadmissibles.
Ah.
Et même scandaleux. Ah. Vous êtes presque aussi réactionnaire que moi. C'est pas moi qui le dis, hein, moi je crois presque.
Eh oui, moi je n'aime pas les jeunes, moi. Pour une raison très simple, d'abord c'est qu'ils sont jeunes et que je ne le suis pas.
Il y avait une question pour monsieur Raffard.
Insupportable.
Raffard de Brienne. Il est parti, mais vous pouvez répondre. Le père de Foucault est-il bien heureux ? Pourquoi n'est-il pas sanctifié ?
Eh bien, il y a eu un excellent papier de Pierre Darnac dans le Libre Journal il y a quelques années qui expliquait que la cause du père de Foucault était introduite et qu'elle était avancée, etc., et qui donnait des lumières sur les raisons pour lesquelles cette cause était, semble-t-il, aussi difficile à faire aboutir. Donc je ne peux que vous conseiller de lire le Libre Journal de la France courtoise.
Vous trouverez
4 places France Liszt, 75-010 Paris.
Et vous pouvez en obtenir un exemplaire en envoyant 30, un carnet
30 francs d'antin, parce que on n'a pas les moyens d'offrir des... Je voudrais bien pouvoir faire de la promotion comme le Nouvel Observateur qui vous dit abonnez-vous, on va vous faire payer le quart du prix, on va vous offrir un téléviseur,
un voyage
au Guatemala, tout frais payé, puis etc. Moi je peux pas, je suis obligé de faire payer les exemplaires. Donc vous envoyez 30 francs en timbre, 4 places France Liszt, voilà. Et vous recevez un exemplaire.
Est-il vrai que Sainte-Thérèse de Lisieux est restée en tête ?
Je ne sais pas.
Et en est-il de même que Sainte Marguerite Marie qui bat des cils ?
Oui, je ne sais pas si elle bat des cils, mais je sais que Sainte Marguerite Marie à la coque, elle est
intacte,
oui, le corps. Mais c'est assez, c'est pas très extraordinaire la préservation du corps. Le plus bel exemple récent, c'est quand même le père, le Libanais, rappelez-moi son nom. Le Libanais, le saint Libanais. Qu'on retrouve toujours, qu'on a sorti trois ou quatre fois du ton. Maronite, oui, mais comment il s'appelait le père?
Non, le frère.
Je ne sais plus comment il s'appelait. Non, c'est pas Maroun, c'est Char quelque chose. J'ai un trou. Bon. Et chaque fois qu'on le sort de son tombeau, il repose dans 20 cm d'eau dont on ne connaît pas l'origine, et le corps est absolument intact. Donc c'est un mystère. Il y a un très bon livre sur cette question qui s'appelle, je crois, l'Encyclopédie des phénomènes mystiques, et qui est sorti il y a quelques années. J'avais reçu son auteur à ce micro, où il analyse tous les phénomènes, les phénomènes surnaturels qui sont liés à l'état de sainteté réalisé ou supposé, comme les odeurs de sainteté, par exemple, qui sont un fait vérifié, c'est-à-dire que les corps des saints diffusent des parfums extraordinaires, des parfums de roses, des parfums de fleurs, pas du tout des odeurs de charogne, comme le corps de n'importe quel homme politique, par exemple.
Le mot ostension, soyons contents, est dans le littré.
Ah bah,
il n'est pas dans le petit Larousse. Et alors, une conclusion générale sur ce qui a été dit précédemment, n'importe quel crétin peut s'en rendre compte. Le problème n'est pas politique, culturel, civilisationnel, mais religieux. Rêvons un peu. Lorsque messieurs Le Pen, Maigret, Villiers et quelques autres s'en seront également rendus compte et qu'ils auront fondé le Parti catholique pour la libération de la France, on pourra peut-être avoir un petit espoir. Mais que voilà une idée, quelle est bonne.
C'est bien. Voilà, c'est tout.
C'est une idée intéressante.
Et commentaire sur le match. Je suis chauffeur de bus à la RATP. Le soir du match, la police générale de Paris nous a ordonné par radio de rentrer tous les autobus au dépôt.
Et c'était prévu.
Prudence.
C'était prévu. Beaucoup de chauffeurs, plus exactement, beaucoup de conducteurs d'autobus, de machinistes, de machinaux, savaient qu'ils ne travailleraient pas ce soir-là. Ils savaient très bien qu'on allait leur dire de rentrer. Donc l'émeute était attendue et elle n'a pas été interdite. C'est-à-dire la manifestation n'a pas été interdite. Donc il y a véritablement une espèce de...
Il y a eu une manifestation assez spontanée. Il y a des gens qui sont descendus. Moi j'avais mon petit-neveu à Paris, il a 15 ans, il vient de Lille. Et heureusement sa grand-mère l'a retenu par les basses parce qu'il partait vite.
Ouais, il y a encore des grand-mères qui tiennent le coup. Mais il faut comparer ce qui s'est passé le soir du match avec ce qui s'est passé le soir du spectacle gratuit de Johnny Hallyday. Il y avait à peu près le même nombre de personnes dans les rues, en tout cas d'après les gazettes, 400 000 personnes. Mais d'un côté, il y a les 400 000 personnes qui sont allées applaudir Johnny Hallyday. C'était pratiquement 400 000 franchouillards de base. Il fallait voir la foule, d'ailleurs, quand on voit les caméras filmer la foule, c'était absolument frappant de voir comment était composé le public. Il n'y a pas eu le moindre incident, pas le moindre incident. Mais en revanche, sur les Champs-Élysées, c'était 400 000 personnes qui ne correspondaient pas au portrait que je viens de tracer des adorateurs de Johnny Hallyday. Et là, il y a eu saccage. Alors, quelques jeunes nous disent n'exagérez pas, etc. Un autre auditeur nous dit il y avait beaucoup de drapeaux français. Et un drapeau algérien, il en a peut-être vu un, moi j'ai des amis qui en ont vu plusieurs, et qui ont vu des drapeaux algériens, marocains, qui n'ont rien à foutre à Paris, enfin c'est tout. Si ces gens-là se sentent marocains et algériens, c'est très bien, c'est leur droit strict, mais à ce moment-là qu'ils aillent brandir leur drapeau chez eux, parce qu'un drapeau c'est un signe d'occupation, quand on brandit son drapeau dans un pays étranger, ça veut dire qu'on prend possession de ce pays, c'est clair ça. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des drapeaux de leur pays ou de leur supposé pays chez nous. Ils ne sont pas chez eux, chez nous, contrairement à ce que disait Mitterrand.
Le nom que vous cherchez tout à l'heure est Saint-Charbel. Ah ben voilà, deuxième, voilà. Maclouf.
C'est autre chose.
Je l'ajoute. Et puis alors, une nouvelle extraordinaire. Mm-hmm. Une auditrice nous dit « J'ai vu le Libre Journal en kiosque
».
Boulevard Jourdain, dans le 14e, il y avait deux exemplaires, 30 francs.
Oh ben, il ne doit pas faire beaucoup de bénéfices parce que...
Non, il y avait deux exemplaires valant 30 francs chacun, je suppose.
Non,
en tous les cas, ils étaient affichés dans le kiosque.
Ah ben bravo. Merci, monsieur Jourdain. Je ne sais pas si on a eu raison de donner l'adresse de son kiosque, à mon avis.
Il va se faire massacrer.
Pas une très très bonne idée.
Quand inviterez-vous Guillaume Fay?
Je ne sais pas. Pourquoi faire?
Parce que je ne sais pas, il y a un auditeur qui veut absolument que vous l'invitiez.
Ben oui, mais il y a beaucoup de gens que je devrais inviter ou qu'on voudrait que j'invite. Mais je crois qu'il a déjà été reçu.
Et
dans
aussi, une autre nouvelle agréable, je signale que Gallimard vient de rééditer dans sa collection de poches folio noir l'excellent Pour venger Pépère d'ADG.
Oui.
À quand les... écrits politiques de Serge de Beketch dans la Pléiade.
Oui, ça, on va attendre un peu peut-être. C'est tout ?
Pour le moment, oui.
Bien. Alors, je me tourne maintenant vers Maître Maviel et le docteur Dor pour faire un point de la situation. Alors, des commandos, les condamnations dont la justice a frappé les membres des commandos. Je suis désolé, mais vous n'êtes pas crédible en commando. Qu'est-ce que vous voulez, docteur ? Vous n'êtes pas crédible. Il faut, faudrait, vous devriez prendre des garçons. Je sais pas, il faut faire 1m90, le crâne rasé et tout. Pourquoi vous ne rasez pas le crâne ?
Oh, je n'ai pas tellement de cheveux, finalement.
Bah oui, mais enfin, vous n'avez pas le côté skin, quand même, c'est pas tout à fait ça. Quoi.
Oui, oh, ben, vous savez que nous sommes très, enfin, nous sommes pacifiques, alors là. Ah, nous avons un peu l'image de ce que nous sommes, enfin, que nous voudrions être.
Heureux,
que nous sommes, enfin,
heureux,
c'est pas tout facile. Mais, donc, aujourd'hui, enfin, il y a une nouvelle importante. Une nouvelle importante cette semaine, la semaine dernière, c'était mardi dernier. Nous étions à 13h30 dans la chambre 11. C'est-à-dire la cour d'appel qui donnait son arrêt.
Parlez dans le micro.
Pour trois organisations de manifestations interdites. Et nos avocats étaient Maître Georges-Paul Wagner et Maître Maviel. Et j'aimerais que Maître Maviel vous nous raconte un peu le déroulement de l'audience et ensuite les circonstances de l'arrêt et les conclusions qu'on peut en donner.
Eh bien, comme dirait le président, Maître, vous avez la parole.
Bon, les poursuites qui ont été intentées contre le docteur Dor sont de deux natures. Il y a eu des poursuites en entrave à IVG lorsque il pénétrait dans un établissement pratiquant l'avortement. Le terme véritable du délit est empêchement d'IVG. Et il y a eu par ailleurs d'autres poursuites en organisation de manifestations interdites lorsqu'il envisageait seulement de réunir un nombre plus important de personnes que le petit groupe qui a pénétré un certain nombre de fois dans des établissements d'avortement, à les réunir devant ou à proximité d'un établissement en pratiquant la même intervention que je ne refuse à considérer comme une opération. Alors, il est certain que ces manifestations ont été exactement interdites 18 fois en Île-de-France, 2 fois en province, Haute-Garonne et département de l'Orne. Les 18 interdictions en Île-de-France se répartissent entre la Seine-Saint-Denis, je crois, 2, et puis le Paris d'une part et Versailles d'autre part. Paris est très dominant. Lorsqu'une manifestation, vous savez qu'en France nous ne vivons pas sous le régime de l'autorisation mais sous un régime beaucoup plus libéral, celui de la déclaration d'une manifestation dans une fourchette 15 jours, 3 jours francs avant cette manifestation, on ne peut pas la déclarer avant 15 jours, on ne peut plus la déclarer dans les 3 derniers jours. Donc, lorsque certaines personnes de très bonne foi demandent si une manifestation est ou n'est pas autorisée, c'est une fausse question, car même le président de la République ne peut pas autoriser une manifestation. Il faut la déclarer et éventuellement l'autorité de police peut l'interdire si elle estime que son déroulement risque d'entraîner des troubles graves pour l'ordre public, ou bien encore, c'est la jurisprudence, s'il y a une disproportion trop forte entre les forces de police dont dispose la dite autorité et celles qui sont nécessaires pour assurer l'ordre public. Malheureusement, il y a eu une très grande répétitivité dans les interdictions édictées par le préfet de police de Paris pour les manifestations qu'avait prévues SOS Tout Petit, aussi bien à proximité de la clinique ordinaire dans le 18e arrondissement qu'à proximité de la clinique Jeanne d'Arc dans le 13e arrondissement. La déclaration, de par le décret-loi de 1935, doit être effectuée par 3 personnes, bon, qui sont en principe les organisateurs de cette manifestation. Toujours est-il que il est possible de poursuivre, en vertu de ce décret-loi de 1935 qui, pour la partie pénale, a été intégré dans le nouveau code pénal, c'est-à-dire celui que j'appelle le code pénal Mitran par opposition au code pénal de Napoléon, et ces articles d'interdiction ont été intégrés sous le 431-9, et il y a une peine qui est prévue de 6 mois de prison et d'une amende assez lourde pour le cas où il est organisé une manifestation interdite, également pour le cas où serait organisée une manifestation sans déclaration préalable, également pour le cas où serait organisée une manifestation suite à une fausse déclaration, c'est-à-dire à une déclaration qui indiquerait un but qui en fait n'est pas du tout celui de la déclaration projetée. Effectivement, le docteur Dor et d'autres personnes avec lui, notamment le général Lièvre, ont été poursuivis pour leur simple présence sur les lieux alors que la manifestation avait été interdite, étant précisé que les personnes, elles, qui étaient présentes à ces manifestations, ne pouvaient faire l'objet que d'une contravention sur le fondement du R610 du code pénal, car c'est une contravention de première classe, c'est-à-dire la classe la plus basse, passible de 250 francs, que de désobéir à un arrêté de police. Les poursuites, donc, en organisation de manifestations interdites, ont été effectuées à l'encontre du docteur Dor, aussi bien il y a quelques années à Versailles et qu'à Paris. Le tribunal correctionnel de Versailles, dans une première poursuite, avait relaxé le docteur Dor au motif de l'illégalité de l'arrêté édicté par le préfet des Yvelines, arrêté et qui ne se contentait pas d'interdire une manifestation déclarée, mais qui interdisait jusqu'à la fin du monde, si puis-je dire, ou jusqu'à ce que l'arrêté soit rapporté, toute manifestation de toute nature dans un rayon de 500 mètres de tout établissement de soins privé ou public et de tout le département. Cet arrêté d'ailleurs est toujours en vigueur, nonobstant requête qui a été présentée devant le tribunal administratif de Versailles et qui n'a toujours pas été audiencée. Le tribunal correctionnel de Versailles avait estimé, sur le fondement de l'article 111-5 du code pénal, c'est-à-dire d'un article qui permet au juge répressif, au juge pénal, face à une poursuite qui est fondée sur une interdiction administrative qu'il estime illégale, non pas de déclarer le texte administratif nul, ça seule la juridiction administrative peut le faire en vertu du principe de la séparation des juridictions en France, mais de relaxer au motif que cette décision administrative est illégale. Trois poursuites avaient donc été effectuées sur Paris pour trois présences sur les lieux de manifestation interdites en décembre 98, janvier et février 99. Deux concernaient uniquement le docteur Dor et une le docteur Dor et le général Lièvre. La poursuite avait été effectuée sur le fondement de la comparution immédiate ex procédure des flagrants délits et une audience avait été programmée l'an dernier devant la 24e chambre correctionnelle du TGI de Paris. J'avais présenté avec M. Wagner des exceptions in limine litis et qui avaient été accueillies par cette 24e chambre. La particularité de la procédure avait simplement été la suivante, c'est que pour deux affaires, c'est une exception qui avait été retenue et pour une troisième affaire, c'était une autre exception. Alors, pour deux affaires, l'exception retenue était intéressante en ce sens qu'il y a un article du Code de procédure pénale qui indique que la procédure très simple de convocation par procès-verbal devant le tribunal correctionnel, qui est utilisée de plus en plus en raison de la fréquence de la délinquance, notamment à Paris, ne peut pas être appliquée lorsqu'il s'agit d'un délit de presse, ou bien lorsqu'il s'agit de prévenus mineurs, ou encore lorsqu'il s'agit de délits politiques. J'ai eu l'idée alors de soutenir que l'organisation de manifestations interdites était un délit politique, la difficulté résidant dans le fait que si la loi, exactement le code de procédure pénale, indique que cette procédure de convocation ne peut pas être utilisée pour les délits politiques, aucune loi, aucun article de code n'indique la liste des délits politiques, et que les délits politiques sont de fait déterminés par la plus haute autorité que nous avions dans notre pays, c'est-à-dire la chambre criminelle de la Cour de cassation, au niveau pénal, au gré des quelques difficultés qu'il peut y avoir lorsqu'il y a des condamnations qui ne sont pas possibles pour le délit politique, comme par exemple la contrainte par corps. Il n'est pas possible de condamner un particulier à une amende avec contrainte par corps s'il s'agit d'un délit politique. C'est donc en quelque sorte, ce n'est pas excellent d'un point de vue système juridique, et c'est par le biais de quelques procédures que l'on sait en définitive quels sont les délits que la criminelle considère comme étant ou non des délits politiques. Et en l'occurrence, il n'y avait jamais eu d'arrêt de la criminelle qui aurait estimé que l'organisation de manifestations interdites était un délit politique. Par contre, elle avait dit qu'était un délit politique l'attroupement et le délit spécifique de provocation à attroupement. La 24e du TGI de Paris, pour deux poursuites, a reconnu le caractère de délit politique de l'organisation de manifestations interdites, donc l'impossibilité pour le parquet de poursuivre, enfin de convoquer en justice par procès verbal, et a dit la nullité de la procédure. Ce qui d'ailleurs n'aurait pas empêché le parquet, s'il l'avait voulu, dans le délai des 3 ans de la prescription, de repoursuivre le docteur Dor. Et alors pour la troisième affaire, qui concernait le docteur Dor et le général Dièvre, la 24e du TGI de Paris avait retenu une autre exception que j'avais soulevée, à savoir l'illégalité de l'arrêté d'interdiction édicté par le préfet de police de Paris. La 24e avait même été très loin en jugeant qu'il y avait eu, de la part du préfet de police, détournement de pouvoir, que son but essentiel était d'interdire toute manifestation de cette association. D'excellents constats d'huissier avaient permis de déterminer que les arrestations des participants étaient discriminatoires, et un huissier avait même retranscrit une phrase donnée par un commissaire de police: embarquer simplement les anti-IVG. Donc il y avait eu 3 succès au niveau de la première instance, mais le parquet de Paris avait formé 3 appels. Donc le docteur Dor se présentait devant la 11e chambre de la cour d'appel de Paris en qualité de prévenu relaxé. C'est le parquet qui était appelant. Et donc, il était, comme le général Dièvre, intimé.
Maître, excusez-moi, oui. Je crois que le substitut réclamait pour le général 20 000 francs d'amende.
En première instance, les réquisitions du parquet avaient été, je dois dire, fermes, mais quand même modérées, en ce sens qu'ils n'avaient requis aucune prison, ni ferme, ni avec sursis, mais simplement une amende ferme.
Et importante, 20 000 et 40 000 pour le...
Oui,
pour moi.
Cela étant, lorsque l'affaire a été audiencée devant la 11e chambre de la Cour d'appel de Paris, nous avons eu l'agréable surprise de voir que le parquet général, c'est-à-dire le parquet de la Cour, prenait une position qui était à l'opposé de celle du parquet de Paris. Cela est extrêmement rare, et je dois dire, a bien facilité le travail de M. Wagner et de moi-même, en ce sens que l'avocat général a écarté totalement la thèse du délit politique, a donc demandé l'annulation et l'évocation pour les 2 jugements qui avaient dit l'organisation de manifestations interdites être un délit politique, mais par contre a accueilli l'exception de l'illégalité des arrêtés du préfet, non plus d'un seul, mais des 3 arrêtés du préfet, au motif qu'il y avait non pas détournement de pouvoir, ce qui était un peu excessif peut-être de la part de la 24e chambre du TGI, mais qu'il y avait excès de pouvoir dans ces interdictions. Et il est certain qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel en 1995 qui a fait rentrer la liberté de manifestation dans le bloc de constitutionnalité comme étant un principe fondamental, et que sur ce fondement, il était effectivement possible, comme je l'avais fait d'ailleurs dès la première instance, de soulever l'exception de l'illégalité de l'acte administratif fondement des poursuites. Et la Cour a, ce qui est assez rare, disjoint les exceptions du fond, ce qu'elle a le droit de faire lorsque l'exception touche l'ordre public. Donc l'affaire n'a pas été plaidée au fond devant la 11e chambre de la Cour, et le 27 juin, elle a rendu 3 arrêts qui faisaient droit à cette exception d'illégalité, je répète, sur le fondement de l'article 111-5 du Code pénal. Je peux dire que il n'y avait pas de partie civile, et que le délai des 5 jours est expiré, et que le parquet général n'a pas formé le pourvoi. Il aurait été étonnant, étant donné que l'avocat général avait requis 3 relax, que le parquet général forme des pourvois, mais j'étais cet après-midi au greffe, et il n'y a pas de pourvoi, et j'aurai les CNP, c'est-à-dire les certificats de non-pourvoi. Voilà, d'une manière peut-être un peu technique, ce que mais je voulais dire.
Je vous remercie, maître, de l'avoir dit d'une façon technique, parce que ce sont des questions qu'on aborde toujours sous l'angle de l'actualité immédiate, et ça finit par faire une espèce de confiture confuse. On ne comprend absolument plus pourquoi les poursuites ont eu lieu, qui poursuit qui. Tantôt on sait que le docteur est en prison, tantôt il est dehors. On finit par plus très très bien comprendre, sinon qu'il est persécuté parce qu'il est hostile à l'avortement. Et moi, vieux défenseur de la démocratie, je pensais qu'en France on avait le droit à la libre opinion et qu'on pouvait exprimer démocratiquement ses opinions, et je suis toujours étonné de voir qu'on met en prison un homme tout simplement parce qu'il dit je suis pas d'accord avec mais maintenant j'ai parfaitement pas parfaitement compris, mais enfin j'y vois plus clair.
Je peux dire que c'est effectivement pour organisation de manifestations interdites, savoir le 8 novembre 1997 devant l'hôpital Mignot au Chesnay, que le docteur Dor a été, suite au débat contradictoire que j'ai certainement mal défendu, envoyé en prison provisoire à Bois d'Arcy, et cela pendant 12 jours. Et là également, il y a eu ce phénomène extrêmement rare. Le parquet général de Versailles a pris parti contre le parquet de Versailles, et il y a eu un référé liberté et une ordonnance de libération d'office. Et cette affaire, qui semblait assez vieille, a connu un certain retard parce qu'il y a eu une instruction, parce qu'il y a eu un mémoire que j'ai formé en chambre d'accusation. Elle est venue au tribunal correctionnel de Versailles à la fin de l'année dernière. Le parquet de Versailles a requis 15 jours de prison ferme, ce qui est une peine assez curieuse, mais qui s'explique essentiellement pour couvrir les 11 jours et demi de détention préventive à Bois d'Arcy. Le tribunal a rendu un jugement disant le docteur Dor coupable, mais rejetant les prétentions carcérales du parquet et lui donnant 20 000 francs d'amende. Le docteur Dor a appelé, c'est-à-dire s'est retourné vers la cour d'appel de Versailles. L'audience a eu lieu au mois de mai. Le conseiller rapporteur lui a demandé s'il, en cas de condamnation, il accepterait éventuellement d'effectuer les travaux d'intérêt général. Le docteur Dor a répondu que oui.
Oui, alors à ce propos, oui. Excusez-moi, ma fille m'a fait remarquer, mais au fond, tu aurais dû dire, elle me disait, tu aurais dû dire que c'est ce que tu l'avais cessé de faire, des travaux d'intérêt général.
Oui, justement.
J'ai trouvé que ma fille,
c'est très joli fond.
C'était joli fond.
L'arrêt devait être rendu le 25 juillet et il y a un report de délibéré. Il sera rendu simplement le 5 septembre.
Et ben voilà, le suspense continue.
Donc, il est en quelque sorte de tradition de ne pas donner d'avis pendant un délibéré. Je ne le fais pas.
Merci, maître. Docteur, oui. Donc vous pouvez partir en vacances tranquillement, ils vont pas vous jeter en prison tout de suite.
Non, la prison, je crains pas grand chose.
Bon, ben ça va. Dites-moi, avez-vous des nouvelles du jeune médecin qui a été poursuivi par le Conseil de l'Ordre pour vous avoir Mais trouvez, pour avoir trouvé votre situation.
J'ai eu les détails dans le livre, Libre Journal.
Ah bon, vous lisez donc mon journal.
Je lis, c'est ça. Et j'avoue que vous en saviez beaucoup plus que moi. Ouais. Si bien que je ne connais pas la fin de l'affaire. Ce médecin donc qui m'avait vu juste avant mon emprisonnement et estimé qu'après tout, l'état de mes yeux nécessitait une observation, un traitement, etc.
C'est une histoire ahurissante, je dois dire totalement ahurissante, c'est-à-dire que ce médecin ayant dit que le docteur ne pouvait pas rester en détention, pas en préventive, enfin en garde à vue, le mot d'ailleurs est formidablement choisi là en l'occurrence,
oui,
parce que vous risquiez de perdre la dite vue, vous avez été donc transporté à l'hôpital, et le parquet de Versailles a introduit une action contre le médecin en disant qu'il avait rendu un certificat de complaisance. Et il y a eu deux procédures. Le conseil de l'ordre ayant dit que non, il n'y avait pas lieu, etc. Il y a eu une nouvelle poursuite. D'ailleurs, le gag était que la réponse du conseil de l'ordre avait été faite d'une façon probablement rapide et elle était dans l'expression. Il y avait des phrases un peu maladroites, enfin des phrases très longues en l'occurrence. Et le parquet avait fait la remarque dans son, je sais pas comment on appelle ça, dans sa note, dans son réquisitoire, avait fait la remarque que on sentait bien que c'était, vous savez, une espèce de règlement de compte entre notables. Donc les magistrats notables versaillais voulaient aux médecins du conseil de l'ordre notables versaillais et faisaient remarquer que ces gens-là écrivaient mal le français. Et le problème, c'est que la note du parquet était elle-même bourrée de fautes de français grossières et de fautes d'orthographe ridicules. Donc c'était roulé dans la farine lui-même. Et puis on a plus, j'ai pas eu les suites de cette affaire, mais on était là dans le cadre vraiment caricatural d'un acharnement mauvais, méchant, teigneux, totalement hors de proportion, parce que ce médecin ne vous connaissait pas du tout d'ailleurs, il avait simplement rendu un avis médical. Voilà, eh bien écoutez,
précisément, alors maintenant que cet arrêt a été rendu, On peut penser, il n'y a pas, évidemment, c'est pas une certitude, mais on peut penser que nos déclarations aboutiront finalement à un respect et que nous ne serons pas interdits.
T'as qu'à croire, Grégoire.
Ce qui pour nous, mais je ne sais pas comment ils vont s'y prendre autrement. Parce que là, ils ont essayé après nous avoir la loi d'Eyers, après toutes ces interdictions tous ces arrêtés d'interdiction préfectoraux, qu'est-ce qu'ils vont encore imaginer pour nous empêcher, je ne sais pas encore, alors j'attends la suite. Mais évidemment, nous continuons nos manifestations. Et la prochaine, alors là, elle est tout à fait inopinée, même pour moi, je dirais, parce que on n'avait rien prévu au mois de juillet. Le mois de juillet est quand même un moment où en France, on voit peu de monde dans les villes, dans les grandes villes. Et il se trouve que j'ai reçu par Human Life l'avis que Monseigneur Reilly, Philippe Reilly, de New York, un prélat de sa sainteté, donc.
C'est pas un peu irlandais sur les bords, celui-là?
Reilly, peut-être, mais c'est pas O'Reilly, hein, c'est pas aussi net que le. Enfin, Reilly, ou peut-être française, après tout. Je ne sais pas. Je ne connais pas bien ce prélat. Donc, qui est déjà venu en Bavière, en Autriche, dans l'Italie du Nord, en Suisse, et là, toujours avec un succès remarquable, des prières, des petites bougies allumées, une messe qui précédait la manifestation. Il a été très suivi, et alors aux États-Unis, son nom est très connu, car il a fait fermer, dans l'État de New York, si je ne dis pas de bêtises, 40 centres d'avortement. Et ont participé à ces manifestations plusieurs cardinaux et un grand nombre d'évêques. Ce qui montre que les choses vont peut-être changer si sa venue peut nous rendre les plus grands services, n'est-ce pas, l'Amérique au service de l'Europe, dans ce sens-là, c'est parfait. Alors il sera à Barcelone le 19, il sera à Paris le 22, et la manifestation est prévue pour le 22 juillet à 14h à l'angle, je dis bien à l'angle, de la rue Regnault, R-E-G-N-A-U-L-T, de la rue Regnault, qui est une petite rue dans le 13e arrondissement, et la rue du Château des Rentiers. Regnault, Château des Rentiers. Et cette manifestation à cette manifestation, il y a une messe à Notre-Dame-du-Lys, qui sera célébrée par Mgr Reilly, à 11h15. Cette rue Blomet, donc à 11h15, la messe célébrée par Mgr Reilly. Il a fondé en 1989 une association, là je vais mal prononcer, Helpers of God's Precious Infants, c'est-à-dire, si je traduis comme il faut, les aides des précieux enfants de Dieu. Voilà. Et je ne sais pas si on peut garder cette... traduire exactement comme ça, mais en gros, c'est ça. Donc, cet homme se présente comme quelqu'un d'officiel, finalement, de là-bas, n'est-ce pas, qui a l'aval de la hiérarchie et qui a un soutien populaire important. Et je pense que sa venue en Europe, qui n'est pas passé inaperçu dans les pays d'Europe dont j'ai parlé, eh bien, en France... le 22 juillet, évidemment, c'est une date que les Américains ont choisie, que nous n'avons pas choisie. Et nous nous inclinons bien volontiers. Et je supplie tous les gens qui, ce jour-là, seraient à Paris ou dans les environs de Paris, ou même un peu plus loin, s'ils veulent faire un grand effort, qu'ils viennent ce jour-là, aussi bien à la messe de 11h15 de Notre-Dame-du-Lys, qu'à 14h15, rue Regnault, château des Rentiers.
Ah, pour une fois, on invitera nos auditeurs à obéir à l'Amérique.
Ah, c'est ça. Alors, une fois n'est pas coutume, l'Amérique ne donne pas que le bon exemple, bien entendu. Mais là, il est certain qu'on ne peut pas mieux.
Merci, cher docteur Dor, de venir nous voir.
C'est pour quelle clinique
Ah oui, la clinique Jeanne d'Arc, toujours la
c'est
même.
Toujours la
ça va être la 29e fois, je crois, que nous allons.
C'est plus long que Jéricho, quand même.
Ah oui, là j'ai remarqué, c'est 4 fois Jéricho pour l'instant. Alors là,
c'est 7 fois Jéricho, ça marchera.
Ah, 7 fois, c'est 70 fois 7 fois. Alors, une dernière chose, si vous me permettez, nous avons sorti tout récemment deux tracts. L'un pratique, l'autre théorique, enfin très schématiquement. Répond à pas mal de questions qui se posent dans la rue. Il a été fait par Claude Mallet, le docteur Claude Mallet, qui est une femme tout à fait remarquable, et par Yves Sénéchal. Et ils ont pris en compte toutes les questions. Alors, mon corps m'appartient, et en cas de viol, une personne potentielle, ce n'est pas un être humain. Enfin, bref, il répond. Vous êtes intolérant. Bref, il répond tout ça. C'est un petit peu long, c'est un double feuillet, mais on trouve beaucoup de choses. Et puis alors, il y a un autre tract qui est plus théorique, disons, mais qui montre. Qui a l'intérêt de montrer au fond quelle est la raison de l'avortement. Tout à l'heure, je distribuais ces tracts à la sortie de Notre-Dame des Victoires et je posais la question à une dame un petit peu âgée qui sortait. Alors je lui ai dit, mais madame, elle voulait pas voir le tract, ça l'intéressait pas tellement. Elle me dit, oh, je connais. Je lui ai dit, madame, vous savez, ça vient de sortir. Oh non, vous savez, je sors de la messe. Enfin bon. Alors je lui ai dit, mais madame, savez-vous pour quelle raison on tue les enfants? Alors elle m'a dit, mais écoutez, c'est pour beaucoup de raisons, on enfile les savonnettes et tout ça. Alors j'ai dit, mais madame, c'est pas ça du tout. Vous vous trompez complètement, enfin, il y a peut-être les savonnettes, c'est ce qui est d'ailleurs affreux, entre parenthèses, mais c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que l'avortement a toujours existé, ça c'est ce qu'on nous a dit, l'avocat général de Rennes, maintenant il est idéologique.
C'est pas pour ça qu'on l'admet.
L'assassinat a toujours existé, mais maintenant il est dans la loi. C'est là toute la différence, c'est-à-dire qu'il fait partie, la transgression n'est plus hors la loi, elle est dans la loi. Et alors, pour quelle raison? Parce qu'au fond, tout est là. À quoi ça sert de mettre la transgression? On a mis une plante vénéneuse, un peu comme l'ADN trafiqué, vous savez. Dans la loi, on a introduit un venin horrible qui consiste à permettre de tuer son propre enfant. Pour quelle raison? Alors là, vous savez comme moi, vous connaissez ces déclarations du planning, c'est pour changer le comportement traditionnel. C'est-à-dire que l'avortement, finalement, est un acte révolutionnaire. Alors à quoi sert cet acte révolutionnaire, mais c'est tout simplement pour enfoncer le clou d'une idéologie qui est celle de la culture de mort, c'est-à-dire qui est pas autre chose que le péché originel. C'est l'homme qui décide du bien et du mal, du vrai et du faux, du juste et de l'injuste. Alors il décide ça en assemblée, c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc c'est un retour, fondamentalement cette idéologie est une inversion, n'est-ce pas, qui refuse la grâce, qui préfère la pesanteur, qui refuse la raison droite, qui préfère l'arbitraire, qui est autant une désobéissance qu'une folie, et alors on tue nos enfants. Et alors à quoi sert cette culture de mort? Enfin, le mot de Lénine, très souvent dit, tellement intéressant, qui tient la femme, tient l'enfant, tient la société. Parce que, encore une fois, Satan s'est adressé à Ève. C'était plus intéressant qu'Adam, car elle, c'est l'enfant. Et donc, on corrompt plus facilement, plus sûrement la société en s'adressant à la femme.
Il y a une autre explication, c'est que Adam, même si on lui avait proposé la pomme, il aurait dit à sa femme, essaye d'abord.
Peut-être. Adam est un peu égoïste, c'est ça aussi. Ouais. C'est ça. Et alors tout ça, ça finit comment? Eh bien, je crois qu'on en a déjà parlé. Eh bien, finalement, quand on cherche bien quel est le but même de la culture de mœurs, à quoi ça sert de tuer nos enfants, à quoi ça sert de défiler tous ces gays, tous ces pornos, toute cette inversion, tous ces comportements contre nature, ça, eh bien, la réponse est toute simple. C'est une réponse, finalement, que Satan dirait, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, quand on désobéit à Dieu, et alors, il veut nous damner. Lui-même est damné, parce que pour lui, il n'y avait pas de repentance possible, puisqu'il voyait Dieu face à face. Donc, quand il a refusé de servir, il a été précipité dans les enfers, et c'est là qu'il veut nous attirer. Le but de la culture de mort n'est pas autre que la damnation. Et alors, quel est le remède? Le remède, tout le monde le connaît. Je dirais, contrairement à ce que dit Monsieur Vial ou à d'autres, la chose est tellement belle, c'est un petit garçon qui est assez petit, qui est dans les bras de sa mère est immaculée, et c'est l'image de la tendresse, de la faiblesse, alors qu'il est tout puissant, n'est-ce pas, de la miséricorde, et c'est simplement ce qui nous est demandé, c'est d'être fidèle.
Merci docteur, merci beaucoup.
J'ai un commentaire d'auditeur qui dit, les tueurs d'enfants sont aussi des manipulateurs de langage. Le terme d'interruption volontaire de grossesse est une escroquerie, car en français, le mot interruption signifie la suspension momentanée d'un processus que l'on reprend après. En l'espèce, il s'agit là d'un arrêt et on ne peut plus définitif, et non pas d'une interruption. Et puis, à propos de la Gay Pride, lors du défilé de la Gay Pride, j'ai vu de nombreux petits enfants portant des banderoles. Personne n'a rien trouvé à redire. Mais, pour la fête de Dieu, lors d'une procession autour de l'église, devant le très saint sacrement tenu par notre curé, de tout petits enfants répandaient des pétales de roses, comme cela se fait depuis toujours.
Quelle merveille, ça.
Nous avons croisé un groupe d'opposants qui ont trouvé honteux d'utiliser des gosses pour ces qu'il faudrait interdire.
Ces couenneries.
Ouais, eh ben.
C'est horrible. Moi, je crois, finalement, le plus bel hommage qu'on peut rendre à Dieu, c'est l'innocence. Et il me semble que, parce que souvent, on m'a posé la question, puis je me posais à moi-même la question, pourquoi, au fond, je m'intéresse tant à la lutte contre l'avortement, et que d'autres, bien entendu, ça. Eh bien, tout simplement, je crois, c'est parce que nous chérissons l'innocence. Nous-mêmes, nous ne sommes pas complètement innocents, mais les enfants sont plus près que nous de l'innocence. Et je dirais, c'est l'image que nous aimons, c'est la chose que nous désirons.
Merci encore, docteur.
Merci.
Dernier message. D'abord, la loi de M. Neuwirth autorisant la pilule anticonceptionnelle. Ensuite, la loi Veil qui autorise l'avortement. Enfin, la loi Neyert qui réprime les prières devant les cliniques d'avortement. Il doit y avoir un point commun entre ces trois choses, mais je n'arrive pas à trouver lequel. Pouvez-vous m'aider? Demande un auditeur. Alors, je lance un appel aux auditeurs. Si vous voyez un point commun, vous écrivez-nous. Vous avez gagné. Moi, je ne vois pas du tout.
Et puis, un auditeur nous dit « Félicitations pour votre bel article sur le troisième secret dans le Libre Journal ». Pouvons-nous avoir le sentiment du docteur Dor à ce sujet?
Je comprends, le docteur a lu mon article, mais...
Non, mais sur le troisième secret de Fatima.
Je ferai une émission sur le secret, si le docteur veut en dire un mot. Si...
Ah non, je ne connais pas le troisième secret.
Ah ben, c'est que vous ne l'avez pas lu, alors.
Non, justement, vous voyez, ma femme ne m'a pas lu l'article.
Eh bien, il faudra qu'on vous le lise, et à ce moment-là, vous pourrez avoir une opinion. Merci encore.
Merci encore.
Un auditeur... Oh, il faut que je vous lise ça, quand même. Il faut que je vous lise ça, parce que c'est trop beau. Un auditeur dit... il dit, à vous, les non-accueillants.
Ouh, les vilains.
C'est joli, les non-accueillants. Dans ma ville, les Turcs et autres immigrés se comportent bien et ne me manquent aucunement de respect dans mon club de karaté.
C'est
joli, il l'a pas fait exprès. Évidemment, si c'était un club du troisième âge, ça serait pas la même chose. Mais un club de karaté... Et alors, il ajoute, pour vous montrer que c'est sérieux... Maman, paysanne bretonne, mais qui savait accueillir et rendre service aux gens de passage, quels qu'ils soient, quoique antisémite, grâce au sermon des curés bretons, a dû s'entendre avec la fiancée de mon frère, juive américaine. Voilà. Quelles conséquences vous tirez de tout ça? Moi, personnellement, rien. Je connais plein de gens qui sont antisémites et qui ont des amis juifs. C'est même à ça qu'on reconnaît un antisémite. C'est quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai de très bons amis juifs ». La raison pour laquelle je vous écoute beaucoup, continue cet auditeur, est la curiosité. La raison pour laquelle je ne cotise pas à votre radio est la suivante. J'y entends trop de choses qui ne me conviennent en aucune façon. Ça s'appelle du masochisme. Hein. Docteur, c'est ça la définition du masochisme en gros. Hein.
Oui, c'est quelqu'un qui
prend plaisir à écouter des choses qui lui font du mal. Mais ajoute-t-il, il vous reste la grâce de savoir parler latin, éducation, éducation. Voilà. Ah. Donc vous voyez, on n'est pas quand même complètement mauvais. Et puis ma petite femme téléphone en disant un autre exemple de saint miraculeux, enfin qui ont donné naissance, si j'ose dire, à de l'eau miraculeuse, c'est Abdon et Sénin, effectivement, les deux saints d'Arles-sur-Tech. La tombe miraculeuse d'Arles-sur-Tech, endroit extraordinaire. Merci encore. On écoute de la musique pour se mettre dans l'ambiance. Michel Blanza, on va partir en Bulgarie. Qu'est-ce que c'est cette musique, Michel Blanza? C'est très très sauvage.
C'est la deuxième fois que je la passe ici à la radio pour annoncer la Bulgarie. C'est des musiques de cornemuse, du rhodope, et des chants populaires de berger.
Ça, à quel âge à peu près ça?
C'est immémorial.
C'est assez beau d'ailleurs. C'est vraiment très très... très sauvage, très, très guerrier.
Où est-ce
très
que vous auriez situé ça? Ça, en Bulgarie, en réalité. Personne ne sait où c'est, la Bulgarie.
Oui, enfin, peut-être. Oui, voilà, le premier problème, c'est que personne ne sait où est la Bulgarie.
C'est un énorme problème.
Et c'est vrai. Vous savez que j'ai essayé de... Bon, je suis très mauvais en géographie, mais j'ai essayé... La première fois que vous m'avez parlé de la Bulgarie, j'ai projeté dans mon esprit une carte des Balkans, de l'Europe centrale, et je me suis dit, mais où est ce pays? Et puis, j'arrivais pas à le placer, parce que je voyais très bien où était la Crimée, où était la Macédoine, où était la Roumanie, où était la Serbie, où était la Slovaquie, où était tout ça. Mais la Bulgarie, j'ai l'impression que c'est au milieu de tout ça.
Et les oubliés de l'histoire, ça c'est les oubliés de la géographie.
Ouais. Alors où c'est finalement?
Ben, si vous prenez par exemple les pages du Figaro, vous aurez toutes les températures des capitales européennes, vous aurez même Constantinople, qui s'appelle je ne sais plus comment aujourd'hui, et Ankara, c'est-à-dire au moins deux villes pour la Turquie, une européenne et puis l'autre orientale. Mais Sofia n'existe pas. Sofia doit être en Lorraine.
Oui, bien sûr. Bravo, merci. Ça commence très très bien. Bon, alors donc, on va parler de la Bulgarie, et j'ai indiqué tout à l'heure qu'on allait parler de la Bulgarie, pas par plaisir d'évoquer des sujets exotiques, mais parce que...
C'est pas exotique du tout, il nous ressemble énormément. D'ailleurs, je vais vous le montrer avec des illustrations musicales. Mais ils nous ressemblent, et ils ont des problèmes qui ressemblent aux nôtres, mais ils sont peut-être dans des ennuis encore plus accentués, plus profonds. Nous allons voir.
Je vous écoute. Alors, ces problèmes sont des problèmes...
qui vont se poser à nous de manière imminente.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes allé en Bulgarie. C'est parce que vous avez eu l'intuition que ce qui s'y passait était une espèce de répétition.
Vous savez très bien que c'est de votre faute, en réalité.
Oui, bien sûr.
Parce qu'à l'origine, vous m'avez demandé innocemment, il y a plus d'un an, ce que je pensais du Kosovo. Maintenant, ça fait 35 articles, je m'occupe de Serbie, du Kosovo. Il était fatal que je tombe sur la Bulgarie, la Roumanie.
Mais je vous ai jamais demandé ce que vous pensiez de la Bulgarie. C'est vous qui avez eu cette idée.
Maintenant, vous savez, une fois qu'on ouvre une porte, il y a beaucoup de choses derrière. Alors, je vais vous donner mon avis sur tout. Et puis... en tout cas, sur la Bulgarie, j'y tiens tout à fait parce que ça mérite d'être connu. Pour les Bulgares, qui sont des personnes, un peuple extrêmement courageux, avec une aventure terrible derrière eux, une aventure terrible devant eux, ça mérite d'être connu. Et comme s'il y a vraiment tellement de points de ressemblance qu'on va avoir le temps d'en parler, je tiens à évoquer le plus possible d'aspects de ce que j'ai pu voir. Encore une fois, je ne peux pas du tout me proposer en spécialiste, je ne suis pas du tout spécialiste de tout ça. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses que tout le monde peut découvrir assez facilement. Il suffit d'ouvrir les yeux, de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe.
Donc on va parler de ça et on va voir comment on peut faire main basse sur un pays, comment on peut démanteler un pays, comment on peut le déraciner, comment on peut détruire ses traditions, sa culture et l'espérance de son peuple.
Que c'est le plan du mondialisme en réalité, et que aujourd'hui c'est eux, demain c'est nous. Vous connaissez la devise qui...
Odier mi, cras tibi.
Merci.
La phrase rappelée par Jean Madiran de présent, aujourd'hui, ce qui m'arrive à moi, t'arrivera à toi demain. Voilà, on va écouter pour finir encore un peu de musique, et puis pendant la pause, vous entendrez de nouveau le chant des partisans blancs en russe.
Et puis on va ouvrir avec une musique bulgare.
Et puis on recommencera par une musique bulgare parce que...
Qui va vous étonner.
C'est la moindre des choses. Comme on va rentrer de Russie à pied, on va s'arrêter en Bulgarie pour écouter un morceau.
Merci d'avoir choisi Radio Courtoisie pour passer votre matinée. Tout à l'heure à 10h45, le livre du jour « Trésors en poche » d'Anne Brassier. Et tout de suite, nous retrouvons Serge de Bekech pour la deuxième partie de son libre journal d'hier soir. Très bonne matinée, il est 9h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 juillet 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 6 juillet dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01
Sonniger Tag, wonniger Tag, Luft in das Herz und der Mondeinschlag, lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nehmen wir mit, so ging das Leben dem Traum zu dritt. Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenhält, drum sei auch nie betrübt, wenn der Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt. Din 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 din
Nican, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
La musique vulgaire. Victoria a parfaitement reconnu.
Il me passe les comédiens harmonistes.
L'indicatif, à la
l'indicatif, avoir un bon copain, c'est la plus belle chose au monde.
Et alors vous verrez au cours de la soirée,
haben ein guter Freund.
Ça se cause des Gefühle ou quelque chose comme ça.
Oui. Mais qu'est-ce que ça a de bulgare, ça?
Eh bien, ils ne sont pas si différents de nous qu'on veut bien le croire. C'est un univers continu. En fin de compte, ce sont quasiment nos frères, si on veut bien le regarder.
C'est des Bulgares, les comédiens russes? Je croyais que c'était des Allemands homosexuels.
Mais je vous passe tout ça.
Incroyable.
Vous verrez.
Incroyable.
Vous verrez. Première révélation.
Étonnant.
Il va y en avoir d'autres.
Comédienne, harmoniste. Oui. C'est étonnant.
Ils chantent dans toutes les langues possibles imaginables.
Alors, bon, dites-nous d'abord où est cette...
Ils sont polyglottes.
Cette fichue, si j'ose dire,
la Bulgarie.
Ça se trouve où?
Au sud-est de l'Europe.
C'est un peu... Oui, ça, je le savais,
tout
mais...
Tout là-bas, tout en bas.
Au nord de la Grèce.
Au nord de la Turquie d'Europe.
Il y a un petit bout. La Turquie d'Europe.
Il y a un petit bout. Un petit bout qui reste un résidu.
Ah oui. En attendant, une tête de pont, ça s'appelle en termes militaires.
De pont, oui.
Bien, alors on voit où c'est. Combien d'habitants?
8 millions normalement, 7 en réalité, puisque 1 million a dû s'en aller à la suite des privations. Alors on a 40% des Bulgares qui vivent actuellement avec moins de 260 francs par mois.
L'équivalent.
Ouais, parce que ils payent leur monnaie, c'est le lev. Le lev est indexé sur le Deutsche Mark. Donc
il évolue comme le Deutsche Mark.
Pourquoi? Mais parce que toute la zone est destinée à devenir allemande, puisque le Kosovo voisin s'appellera peut-être l'Albanie dans pas très longtemps, et déjà avec le petit haut docteur Kouchner, une zone allemande. D'un point de vue de monnaie, je veux dire.
Oui, c'est déjà le marque qui est...
Voilà.
On parle une langue qui ressemble à de l'anglais.
Oui, à peine.
C'était l'onglet et on monnaie en marque. Donc ça, c'est le Kosovo. Ça va bientôt être le cas, probablement Monténégro.
Il y a la Macédoine qui est aussi concernée. Bon, l'Albanie sera très heureuse aussi de se mettre aux marques. L'essentiel des échanges dans la région, de toute manière, se fait en marque. Depuis très longtemps.
Oui, alors la population bulgare, qu'est-ce que c'est?
C'est un ancien pays communiste.
Violemment communiste, durement communiste.
Bah, non.
Il y avait l'autre jour à la télévision une interview du... Ah non, ils ne sont pas restés peut-être, mais il y avait une interview du président bulgare qui expliquait que les Bulgares avaient voulu être plus communistes que les Russes parce qu'ils veulent toujours essayer de faire aussi bien et mieux, voire mieux que les grands frères.
Oui, il y a eu des petits gags qui couraient, mais c'était un peu malveillant. C'était la 16e République, disait-on, de l'URSS. Ça leur plaît pas beaucoup parce que de leur point de vue, ils ont résisté. De leur point de vue, encore une fois.
Ils ont résisté à l'envie de se battre, surtout.
Ben écoutez, 8 millions, il y avait l'Empire soviétique, c'était 200 et quelques millions.
C'était pour plaisir de faire un mot.
La Bulgarie, elle a été livrée par Churchill. Elle n'a pas cherché du tout son destin de ce côté-là. On les a livrés. Et à l'époque, on ne livrait pas que ça. On livrait aussi les troupes russes qui étaient sur notre sol. L'essentiel de l'Europe centrale a été donné à Staline. Et c'est des choses qui ont peut-être duré. Il y a eu peut-être un accord qui était plus fortement organisé qu'on ne l'a cru. Alors, parce que c'est l'impression qu'il y a là-bas. Ouais. C'est le psychologiquement, beaucoup de gens sont dans cet état de dire que pendant les 50 ans où ils ont été sous la botte soviétique ou communiste ou bolchevique, on le dit aussi beaucoup bolchevique maintenant, on met de côté Staline parce qu'on revoit un petit peu l'histoire de manière générale. On pense que alors qu'ils ont connu Staline, ils n'ont pas eu à connaître la période antérieure. Mais leur ennemi, tel qu'ils le voient, c'est plutôt la première partie du communisme.
Ah oui.
Et Staline, ils ne vont pas dire que c'était un libérateur, mais ils ne le voient pas de la même manière par rapport à des problèmes récents qui s'offrent à leurs yeux, comme aux nôtres, si on veut bien les ouvrir.
Alors justement, à propos de ces problèmes qui se posent à nous comme à eux, il y a le problème de la constitution du tissu social, non pas du tissu social, mais du tissu ethnique du pays.
Oui, c'est un des problèmes. Vous savez, alors...
Qu'est-ce qu'il y a comme...
Vous avez les Bulgares, le Bulgare dont vous voulez qu'on remonte historiquement assez loin, qu'on sache quelles sont ses origines, s'il est slave ou non, s'il vient de tribus mongoles, turcoïdes ou pas.
Si vous êtes capable de faire ça en 2000.
C'est pas facile, c'est pas facile du tout, parce que l'histoire bulgare, elle se déplace énormément dans l'espace et dans le temps. Elle remonte jusqu'à la Baltique, elle va jusque dans les steppes d'Asie centrale, il y a des capitales successives.
Oui, il y a combien de capitales? Je vois une vingtaine de capitales.
Moi, j'arrive pas à les compter.
C'est étrange d'ailleurs. Parce que...
C'est très curieux, c'est une histoire curieuse. Alors que le peuple bulgare tel que vous le connaissez, celui auquel vous avez affaire, est un peuple sédentaire européen. Mais bon, l'histoire de la Bulgarie, elle commence peut-être en 1876, au moment de sa libération, des 5 siècles d'occupation turque, d'occupation ottomane, à laquelle ils ont résisté, là aussi. Et là aussi, on peut leur dire qu'ils n'ont pas résisté. Et il y a beaucoup de révisionnisme par rapport à ces questions-là, qui est de dire, par exemple, que les chrétiens étaient les protégés. Alors il ne faut quand même pas trop dire
ça. C'est pas du révisionnisme, c'est du négationnisme, c'est du mensonge, c'est différent. On va pas confondre le mensonge et le révisionnisme.
Je suis d'accord. Il y a du révisionnisme, il y en a aussi.
L'attitude
quand vous regardez, j'en parlerai tout à l'heure, j'ai amené.
Vous savez, il ne faut jamais perdre de vue, Jean-Paul Roux, pardon de vous couper un instant, il ne faut jamais perdre de vue que révisionnisme, c'est une injure qui a été inventée par les communistes, et notamment par les staliniens. Donc pour nous, d'être traité de révisionniste, pour moi, je considère que c'est un compliment.
Voilà. Il y a eu plusieurs significations au mot.
Voilà, comme toujours, tous les mots ont une signification.
Exactement.
Donc, le fait de dire que les chrétiens vivaient heureux et protégés en régime de dimitude, ça, c'est pas du révisionnisme, c'est du mensonge et de la propagande.
Vous retrouvez ça dans tous les secteurs actuellement. Par exposition, aussi bien de peinture culturelle dans toute l'Europe, que par publication. Je regarde le livre L'histoire des Turcs qui est paru chez Fayard, qui fait référence de l'orientaliste Jean-Paul Roux. Il y a quand même bien des bêtises très facilement décelables pour un non-spécialiste comme moi. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais
des bêtises ou des mensonges?
Des méchancetés, en tout cas, par rapport aux Arméniens, en particulièrement, de propagande...
Mais c'est vrai que, par exemple, si on parle du statut de dimitude qui était imposé aux populations chrétiennes par l'occupant ottoman, et qu'on dit que c'était un régime de protection, c'est intéressant quand même d'évoquer la façon dont l'ottoman a protégé le peuple arménien.
Oui, ou tous les peuples de la région balcanique, grecque, serbe, puisque c'était la question d'origine qui m'a amené par là.
Effectivement, une fois qu'ils étaient protégés, il ne risquait plus leur arriver grand-chose.
Eh bien oui, les enfants étaient enlevés et servaient de janissaires, les femmes étaient enlevées et servaient au harem, les hommes étaient enlevés et servaient d'esclaves, il y avait régulièrement des têtes coupées, ça a duré 5 siècles pour la Bulgarie. C'est pas du tout comparable à ce que l'on a connu par rapport à l'actuel cousin germain.
Chez les orthodoxes bulgares, un sentiment de haine raciale contre les
raciale,
ou
non,
ethnique
pas le genre. En plus,
contre les Turcs.
Non, enfin, les Turcs maintenant, c'est les Pomaks, où ils sont appelés à nouveau les Turcs, ils représentent à nouveau près d'un million de personnes, sur 7 millions actuellement.
Mais les Pomaks, eux, disent qu'ils sont des Bulgares de confession musulmane, et qu'ils ont un...
Alors, le problème, justement, c'est qu'on va les appeler les Turcs dans la région, quelquefois. Les Bulgares vont... où ils vont faire la distinction, parce que c'est quand ça se limite à des zones géographiques bien précises. Où ils sont appelés Pomaks depuis très très longtemps, mais l'islam perçu de manière organisée par les Turcs, c'est une conception qui revient très rapidement actuellement, qui est combattue par l'Europe, qui tient absolument à avoir son schéma de peuple multiethnique porté vers la tolérance, avec des fondations pour la tolérance et des organisations, des lois qui empêche toute expression.
Ça, on va en parler tout à l'heure. Parce que je crois que la première des désinformations, le premier des mensonges de la propagande mondialiste qu'il faut mettre en lumière, en ce qui concerne la Bulgarie, c'est un mensonge qui porte sur la constitution du peuple, sur ses origines, ses racines.
Oui, c'est extrêmement important. Ça fait partie du schéma général d'aménagement des peuples, de la restructuration, puisqu'on a parlé de perestroïka. Il s'agissait de restructuration. On restructure les peuples d'une certaine manière. Alors, comment bien les restructurer? Parfois en les lobotomisant, en retirant une partie de l'histoire.
En les lobotomisant prétend...
Oui, si vous voulez. C'est pas mal, ça. Ouais. en faisant échapper une partie de l'histoire qu'ils ont parfaitement connue, que certains ont très bien enregistrée. Juste une toute petite parenthèse. Il y a un article qui est paru sur la Bulgarie dans le Nouvel Observateur qui a été primé. par une fondation anonyme en Bulgarie. Ça va vous étonner, c'est un article d'un journaliste du Nouvel Observateur, Henri Guirchaune, fait au moment de la guerre du Kosovo, pour expliquer que les Bulgares souffraient d'hypertrophie de la mémoire.
Ah tiens, c'est typiquement bulgare,
c'est parfaitement bulgare, justement, ouais, au moment où ils essayent justement d'oublier beaucoup de choses de manière à pouvoir vivre normalement. Mais ça, ça leur est interdit pour le moment.
Hypertrophie de la mémoire. Ça, c'est une formule qu'il faut garder. On pourra peut-être s'en servir en France.
Ah ben, c'est curieux qu'il se soit trouvé une fondation spéciale pour donner un prix coquet.
C'est pas la fondation Soros, ne me dites pas
ça. Non, c'est pas. Mais je ne sais pas quelle est cette fondation. Je n'ai pas trouvé le.
Alors, on a vu, vous nous disiez qu'il y a les Pomaks qui sont en réalité des Turcs. Il y a donc les Bulgares.
Et les Pomaks, il y a les Turcs qui sont deux choses différentes, mais enfin bon, qui tendance à s'assimiler, lesquels sont travaillés d'ailleurs parfois par des mouvements de musulmans wahhabites. C'est une nouveauté qui, après avoir beaucoup semé la pagaille en Tchétchénie, se répand maintenant dans le sud de l'Europe, et on le sait déjà depuis un moment pour la Bosnie. C'est une, disons, en gros, l'argent américain qui s'employait pour l'agitation du côté de l'Afghanistan a formé des révolutionnaires musulmans qui se sont reportés sur la Tchétchénie, en Bosnie, maintenant en Bulgarie, parce qu'ils ne peuvent pas, comme ils sont originaires en général d'Arabie Saoudite, remettre en cause les structures de l'Arabie Saoudite. Et il faut toute cette belle énergie, il faut bien qu'elle s'emploie à quelque chose, elle s'emploie à déstabiliser la région. Ça tombe très bien, parce que les Américains ont très très envie de voir cette région déstabilisée.
Alors on va voir pourquoi, mais avant je voudrais faire une remarque, c'est que on a commencé cette conversation avec des airs, de la musique de bergers bulgares, joué avec un engin qui s'appelle
une cornemuse.
Et il y a quelques jours à la télévision, dans l'émission Métropolis, on a eu droit à un petit court-métrage d'une dizaine de minutes sur la Bulgarie, qui tournait autour de la musique bulgare. Et pour ces gens-là, pour les gens qui avaient fait ce film, la musique bulgare, on voyait d'abord un mariage chez des Pomaks, justement, avec de la musique Pomak. Ensuite, on voyait un groupe de Roms.
Oui, ils sont importants. C'est une minorité extrêmement importante.
C'est une minorité importante en Bulgarie, dont le représentant disait d'ailleurs, moi je ne sais pas trop ce qu'on est. Est-ce qu'on est des Roms, est-ce qu'on est des Bulgares, est-ce qu'on est des Bulgares Roms ou des Roms Bulgares?
On leur disait en tout cas pas autrefois qu'ils étaient une minorité. Ils étaient une partie constituante du pays. Ouais. Maintenant, ça devient une minorité.
Maintenant, ça devient une minorité. Et puis,
c'est-à-dire un instrument.
Ensuite, on a eu quatre jeunes filles de l'ensemble extraordinaire qui a eu un succès phénoménal il y a 2-3 ans, qui s'appelait le Mystère des Voix Bulgares. Et donc maintenant. Qui a constitué.
Qui est repris en rap d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Bah, tout ce qu'ils peuvent cochonner, ils ne viennent surtout pas pour le faire, c'est porc. On a vu quatre jeunes filles d'ailleurs ravissantes, avec des costumes traditionnels qui étaient des splendeurs, et qui expliquaient que pour elles, il n'était pas question de s'expatrier parce que.
Parce que c'est ce qui arrivait à peu près à tous les chanteurs de Bulgarie, dans la mesure où ils ne trouvent pas d'emploi, où encore une fois, il n'y a pas d'argent. L'argent, ben, on va en parler beaucoup de l'argent, puisque le problème, c'est le pillage du pays.
Alors justement, je crois qu'on a montré qu'il y a des tendances évidentes à nier la réalité nationale bulgare, à nier l'ensemble ethnique bulgare.
Pourquoi c'est important?
Et pourquoi, voilà. Pourquoi les Américains ont-ils...
Parce que, et l'Union Européenne aussi, puisqu'elle pousse beaucoup. Mais l'Union Européenne est peut-être
un pseudopode des Américains. Alors pourquoi ces gens-là, qui ont un pays quand même où ils ont assez de soucis...
Alors vous aviez raison.
Pourquoi ont-ils cette obsession de casser un tout petit pays comme la Bulgarie?
Vous avez eu raison de commencer par la situation géographique. C'est bien ça le problème. La Bulgarie est un carrefour, et c'est dit dans à peu près tous les dépliants que vous pouvez avoir sur le pays actuellement. On prétend que ce devrait être un lien entre l'Asie et l'Europe. Et c'est le grand projet en réalité, c'est-à-dire, puisqu'elle est juste en face de la Turquie, que les voies de transport pour les marchandises, pour l'énergie, c'est-à-dire les oléoducs, doivent passer de l'Asie centrale, où sont les gisements pétroliers, gaziers, surtout gaziers, parce que les besoins en gaz ne vont cesser de croître, on le sait, puisque ce sont des choses qui se prévoient largement à l'avance, qui se quantifient, ne vont cesser de croître dans les années qui viennent. Il faut maintenant aménager des voies de passage. Et ces voies de passage passent par ces anciens pays qui appartenaient au bloc de l'Est, au Comecon. Il faut réaménager tout cela. Mais il faut réaménager tout cela sans les peuples, sans que les peuples puissent en profiter, de manière à, c'est l'obsession du jour depuis longtemps, réduire les coûts. Il ne faut pas que les peuples puissent profiter d'éventuelles taxes de passage ou qu'ils puissent avoir leur mot à dire. Il s'agit d'avoir une grande masse, mais ça nous concerne aussi. C'est le schéma qui est en cours dans toute l'Europe actuellement. Il s'agit de tout mélanger de manière à ce qu'il n'y ait plus d'opposition.
Il faut rappeler peut-être aussi ce que disait le général Gallois
lundi dernier,
en 8, oui. À propos... Du caractère d'extraordinaire dangerosité de certains super oléoducs dont le contrôle permettrait de provoquer de véritables cataclysmes s'il y avait des attentats ou des choses comme ça. Donc on pense bien que les gens qui construisent ces grandes voies de transport d'énergie ou de transport de matières premières ne sont pas du tout disposés à laisser des petites entités nationales contrôler le fonctionnement sur leur territoire.
Oui, tout à fait. D'autant plus que ce sont des milliards d'investissements qu'il faut les prévoir longuement à l'avance. C'est l'investissement capitalistique par excellence. Il faut énormément investir pour ensuite amener régulièrement, pas des petites rentes, parce que ce seront des rentes continues, mais enfin, ce sont des projets qui se construisent très très longtemps à l'avance. Et c'est la raison, en fin de compte, des guerres.
Alors, vous nous avez dit, d'Asie centrale, le gaz.
Particulièrement le gaz. L'eau est un autre problème.
Alors, l'eau, exactement, j'allais vous en parler, parce que l'eau, on voit très bien. Depuis des années, on voit que la question de l'eau est
très importante. Ça fait 25 ans, 30 ans qu'on sait qu'il va se passer quelque chose
dans ce secteur. On voit qu'il y a un axe turco-israélien qui s'est dessiné. Oui. Pour se partager le contrôle de l'eau dans le pays.
C'est-à-dire en Turquie, la Turquie est le principe de l'autre côté, du côté du Moyen-Orient, la Turquie est le principal fournisseur d'eau avec le Tigre, l'Euphrate qui le contrôle, qui sont sur son territoire. Les Balkans regorgent d'eau. Tous les Balkans, c'est-à-dire la Grèce, la Turquie, la Turquie d'Europe, la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro aussi, mais enfin, tous les Balkans regorgent d'eau. Il y a des lacs, il y a des cours d'eau. Tout cela, c'est la richesse à venir, et puis aussi c'est l'occasion de tenir les peuples et les gens qui s'occupent des questions de stratégie savent très bien que c'est une guerre peut-être de 100 ans qui se prépare autour de l'eau.
Et là, le processus mental est le même, c'est-à-dire qu'il s'agit
de contrôler rapidement.
De contrôler et d'interdire aux populations qui occupent ces territoires depuis des millénaires, qui sont en quelque sorte nés de la terre,
de décider
d'exercer le contrôle qui ne doit appartenir qu'à des organismes mondialistes, multinationales.
On va y arriver par des biais assez rigolos. On va prétendre qu'il est nécessaire de privatiser. Ce qui paraît peut-être logique dans un premier temps, dans la mesure où il faut épurer, ainsi de suite, là aussi il y a des investissements, mais ils ne sont pas du tout du même ordre que pour le pétrole ou pour le gaz.
Je pense que
on profite des guerres pour pouvoir confisquer et détourner les richesses, en réalité.
Les torrents des montagnes du coin n'ont pas besoin d'être purifiés. C'est après.
Depuis la guerre du Kosovo avec les bombardements, il y a encore des questions de cet ordre. Par exemple, il y a beaucoup de questions écologiques qui suivent cette guerre. On n'en parlera pas ce soir, mais là, tout le monde s'interroge sur le problème dans la région de... Ils ont 40 degrés depuis quelques jours. C'est des chaleurs inconnues. La nuit doit faire presque 30 degrés. Et on pense que c'est la suite des bombardements. On n'en sait strictement rien, en réalité, pour le moment. Mais il y a eu des dégâts écologiques. Vous vous rappelez la question de pollution du Danube. Et là aussi, comme on est maintenant dans des guerres qui sont secrètes, on ne sait pas par qui elles sont menées, pourquoi exactement, on commence à s'en douter, mais on ne voit pas exactement le schéma. On sait par exemple que les questions du Danube sont liées certainement au canal Rhin-Danube, qui était un projet européen franco-allemand à l'époque, abandonné, repris, là aussi qui demande énormément d'argent. Ce sont des questions qui ont décidé des guerres précédentes, de la guerre de 14, de celle de 40 aussi, chose qu'on ignore très souvent. Donc ces questions de guerre autour de l'eau, du pétrole, du gaz, mais aussi des marchandises qui vont aller de l'ouest vers l'est, parce que nous avons nos marchandises à écouler, ça peut se recouper sur un grand projet qui s'appelle la route de la soie.
Alors à ce propos, d'ailleurs, on en a parlé, mais avant de parler de la route de la soie, je voudrais réévoquer cet aspect qui, à mon avis, est absolument capital et qui ressort très bien de la série d'articles que vous aviez fait sur le Kosovo et la Serbie et de la série d'articles que vous commencez sur la Bulgarie. Mm-hmm. C'est cette volonté, j'y reviens, on en a parlé plusieurs fois déjà, mais j'y reviens parce que c'est capital, cette volonté, cette détermination du système mondialiste d'interdire à certains peuples, certaines nations, d'exercer leur souveraineté sur leur territoire. Et il y a un exemple de ça, enfin, ce qui pourrait être un exemple, c'est un événement qui s'est passé en Grèce il y a quelques jours, où un attaché militaire de l'ambassade de Grande-Bretagne à Athènes a été abattu dans la rue, et l'attentat a été revendiqué par un prétendu mouvement du 17 novembre qui serait un groupuscule terroriste d'extrême gauche qui sévirait en Grèce depuis 25 ans, sans que depuis 25 ans on n'ait jamais arrêté un seul de ses membres, alors qu'ils ont tué plus de, je crois, 50 personnes. Mmh. Et ils ont fait des centaines de blessés dans des attentats divers. Et l'hypothèse qui est avancée par plusieurs personnes qui s'intéressent à ces questions, on en fait état dans le Libre Journal, c'est qu'en réalité, cet attentat serait pas du tout, que le mouvement du 17 novembre n'existerait pas du tout, et que ça serait simplement le fauné de certains services actions américains, pour dire les choses clairement.
Il y a eu ça en Belgique, les cellules communistes combattantes, Gladio en Italie, c'était à peu près ça aussi.
Et qui sont donc des faunés, et que Sanders aurait été exécuté, aurait été abattu pour diverses raisons, dont une qui transparaît dans un article qui a été publié par la presse américaine quelques jours après son assassinat, article qui disait « Maintenant, il est prouvé par ce dernier crime du mouvement du 17 novembre que la Grèce n'est pas capable d'assurer la lutte contre le terrorisme sur son propre territoire et que, par conséquent, il faut que les instances internationales se substituent à l'incapacité des Grecs d'assurer la lutte contre le terrorisme chez eux. » Et on en vient à se demander, disait cet article en chute, on en vient à se demander si le moment n'est pas venu de redonner à la Grèce son vieux nom de province ottomane de Grèce. Et là, on est au cœur d'un système...
Une provocation, oui.
Mais bien sûr, on est au cœur d'un système qui est à l'évidence, qui vise à l'évidence à donner une forme de, comment dirais-je, non pas un impérium, mais un proconsulat à la Turquie sur cette région. Pour des raisons qui sont liées à ce qu'on disait probablement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une alliance objective et commerciale et stratégique, au sens de la stratégie des matières premières, entre la Turquie et Israël.
C'est le malheur de la région depuis très longtemps, d'avoir toujours été actionné par les puissances capitalistes, c'était le cas, c'est pas pour faire du pseudo-marxisme ou des choses comme ça, mais les guerres qui ont eu lieu pendant des siècles dans ces régions-là ont été menées au départ par Venise et par Gênes, c'est ce qui a permis le basculement de ce qui restait de Byzance dans les mains des Ottomans. Ensuite, on a gardé avec les Ottomans de bons contacts de manière à ce qu'ils contrôlent les peuples de la région pour que l'on puisse obtenir les richesses que l'on souhaitait. Au XIXe siècle, les guerres étaient aussi menées par les capitalistes anglais, allemands, français, italiens, très peu, russes, parce que on l'a beaucoup dit, je crois, par les francs-maçonneries. les francs-maçonneries ont été, et elles reviennent, les francs-maçonneries. Parce que dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, la franc-maçonnerie était interdite. Maintenant, elle revient, américaine, italienne, et ainsi de suite. Et c'est une manière de reprendre le contrôle pour des questions d'argent, en réalité. Parce que j'aimerais beaucoup qu'on garde au moins en tête une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de guerre là où il n'y a pas d'intérêt, et d'intérêt financier. Parce qu'on s'est laissé un peu déborder au moment de la guerre du Kosovo.
C'est-à-dire qu'on nous vend, si j'ose dire, des guerres humanitaires, alors qu'il s'agit simplement de bonnes vieilles guerres de fric.
Oui.
Il s'agit de s'emparer de certaines matières premières. Il s'agit d'imposer l'achat de certains produits manufacturés par les puissances dominantes. Mm-hmm. Et il s'agit de s'assurer, c'est un vieux truc qui remonte, je pense que les premières guerres entre les hommes préhistoriques devaient avoir exactement
les mêmes motifs. C'était toujours pour de bons
motifs. Ouais. Il s'agit de s'assurer le libre passage sur certains territoires. Alors vous avez la tribu de Nao qui dit « moi je veux rester chez moi » et la tribu de Gam qui dit « nous on veut traverser parce qu'on veut aller au bord de la rivière » et donc ils se foutent sur la gueule pendant des générations et des générations parce que l'un veut être chez lui et l'autre veut traverser.
Simplement on pensait être sorti de ça alors qu'en réalité on est de retour dans ça.
Ben maintenant, on dit, vous comprenez, la tribune de Nao, il faut aller chez elle parce qu'ils traitent mal leurs femmes. Et donc, on va aller prendre la défense des femmes de la tribu de Nao. Ou alors, parce que la tribu de Nao a en quelque sorte esclavagisé la tribu de Nam. Et alors, la tribu de Gam va intervenir pour rendre la liberté à la tribu de Nam entre les mains des Gao qui sont extrêmement méchants. Mais c'est toujours les mêmes procédés.
Oui, avec des moyens bien plus grands.
Avec des moyens plus grands.
Et un projet bien plus construit derrière qui est de... Mais d'annihiler ce qui reste des vieilles cultures européennes. Et c'est d'ailleurs le problème.
Alors, une de ces voies de passage, quand même, je voudrais qu'on s'y arrête un instant, c'est ce qu'on appelait dans la vieille tradition des grands voyages, des grandes caravanes, la tradition des grands voyageurs au XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIe siècle, la route de la soie.
Cette route de la soie, oui.
Et maintenant, c'est devenu, alors c'est moins charmant.
Elle est définie depuis le 10 mars 1999 par un acte du Congrès américain devant le CFR, le Committee of Foreign Relations, et ça s'appelle le Silk Road Strategy Act, et elle définit très très bien les raisons pour lesquelles on peut intervenir, et ça ressemble terriblement au pacte qui existait autrefois d'assistance entre républiques soviétiques pour... qui devaient se prêter mutuellement assistance pour des raisons en général de très nobles. Alors là, il s'agit les pays de la route de la soie, il faut quand même les définir, c'est l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. C'est-à-dire, en fin de compte, tous les pays d'Asie centrale qui vont jusque en Chine. Et qui vont de la Turquie jusqu'en Chine. Et l'acte qui a été fait au Sénat par le sénateur Brownback et qui définit les raisons, la politique des États-Unis qui va s'imposer à ces pays, les raisons, il s'agit de promouvoir et de renforcer l'indépendance, la souveraineté des gouvernements démocratiques et le respect des human rights,
des droits de l'homme. Oui.
Et de promouvoir la tolérance, le pluralisme, la compréhension et le l'antiracisme et l'antisémitisme.
Promouvoir l'antisémitisme, non.
Non,
La lutte contre. Mais c'est vrai que probablement en Ouzbékistan,
c'est des choses très importantes.
C'est très très important. Il doit y avoir quand même des manifestations d'antisémitisme.
Il est très curieux qu'un pays comme ça, les États-Unis, s'occupe d'une zone qui, avec laquelle n'a pas de frontières, applique une loi exactement comme elle a une loi D'Amato qui
l'impérialisme américain. C'est-à-dire que la loi D'Amato, c'est la loi qui interdit à toutes les sociétés du monde entier, y compris les sociétés françaises, de faire du commerce avec les pays que la puissance américaine a décidé de boycotter. C'est-à-dire que si on veut négocier, on veut travailler avec l'Iran, ou avec l'Irak, par exemple, si des Français veulent travailler avec l'Irak, ils tombent sous le coup de la loi D'Amato. Mmh. C'est absolument invraisemblable, qui est une loi américaine votée à la demande du congressman D'Amato. Et c'est une loi qui interdit tout simplement aux Français de faire ce qui est du strict intérêt des Français, parce que ça ne plaît pas aux Américains. Et le seul fait qu'on puisse accepter ce système sans contrepartie, parce que comment peuvent-ils imposer le droit ? Tout simplement en disant, toute société du monde qui acceptera de travailler avec un pays mis sous embargo américain n'aura plus le droit de travailler aux États-Unis.
C'est la mort du marché.
Eh bien, il suffit de dire, chaque fois qu'il y aura une société qui sera interdite aux États-Unis, société française interdite aux États-Unis, on interdira une société équivalente.
Il n'y a pas de réciprocité, oui.
Mais le principe, c'est que le problème, c'est que chez nous, il n'y a jamais de réciprocité. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut tout faire à la France sans que jamais un seul de nos gouvernants se dresse pour dire, on va faire la même chose. Par exemple, on peut interdire les églises, ça c'est pas une affaire gouvernementale, mais par exemple, il y a des pays qui imposent des visas aux citoyens français et dont les ressortissants n'ont pas besoin de visa pour venir en France. Mmh. Il y a des pays où...
Pour les Belges, c'est le contraire.
Essayez d'aller vous balader dans Alger en brandissant un drapeau bleu, blanc, rouge, et vous allez voir ce qui va vous arriver. Tandis que n'importe quel Algérien en France peut se balader librement, et on le voit partout, sur les voitures, on voit ça sans arrêt maintenant, sur les blue jeans, enfin sur les t-shirts, sur les casquettes, on voit le drapeau algérien arboré fièrement par des Algériens vivant en France. Moi, je ne suis pas contre, je suis nationaliste. Je suis tout à fait nationaliste, je trouve qu'ils ont tout à fait raison d'arborer leur drapeau, mais chez eux, encore une fois.
Mais toutes ces affaires montrent bien justement l'intérêt de la démonstration, c'est de bien voir que l'indépendance nationale est une fiction depuis déjà bien longtemps.
Ouais, bien sûr.
Puisque les
la souveraineté françaises... nationale est une fiction aussi, ce qui est encore plus grave.
Oui. Parce que là, il y a une petite escroquerie qui se déroule depuis un moment, quand vous avez... Couteau, c'est ça,
oui.
qui dit qu'il va défendre les intérêts des souverainistes et qui vote pour l'entrée de la Turquie, c'est totalement aberrant dans l'Europe. Il ne défend plus rien à partir de ce moment-là.
Mais c'est-à-dire que ce qui est grave, je ne sais pas si c'est... Vous avez employé le mot d'escroquerie, c'est pas un mot que j'emploierais pour définir cette attitude. C'est une attitude incohérente, surtout. C'est une attitude radicalement incohérente, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'analyse sérieuse de la situation. Permettre à l'Europe d'entrer dans la Turquie, d'abord... D'ailleurs, le lapsus...
Ça revient pas à peu près...
Mais on sait très bien ce qui va se passer. La Turquie va entrer dans l'Europe, Israël va entrer dans l'Europe, le Maroc va entrer dans l'Europe...
Israël n'a pas besoin d'être dans l'Europe.
Oui, mais ils vont entrer. Pourquoi ils le feraient pas, après tout?
Ils ont le marché...
Et par conséquent, ça veut dire que l'Europe perd absolument toute sa substance et devient rien du tout.
Il s'agit, d'obtenir, exactement, mais c'est le problème qu'ont les pays des Balkans, c'est le problème qu'ont les pays d'Asie centrale aussi, d'une autre manière. C'est cette ouverture des frontières fait que tout est noyé mélangé avec tout et qu'il n'y a plus de possibilité autre que d'être un consommateur.
Alors, on a vu les méthodes. C'est-à-dire qui consiste à déraciner, à faire disparaître le patrimoine. On a vu les raisons, c'est-à-dire la circulation des énergies et des biens, et la création d'infrastructures pour faire circuler ces énergies et ces biens.
Mm-hmm. On peut voir aussi d'ailleurs ceux qui y agissent derrière ça. Pour la route de la soie, par exemple, c'est pas un projet qui sort de l'esprit d'un rêveur. Ça a été débattu à Davos. Davos, en début de cette année, c'était le projet essentiel débattu par les grandes entreprises, les chefs de gouvernement. Et le chef du gouvernement bulgare était invité, il n'y était pas, étrangement, Monsieur Stoyanov. Et étrangement, parce qu'il est le principal concerné dans la mesure où le raccordement de la route de la soie entre l'Europe et l'Asie passe obligatoirement par la Bulgarie.
Alors, il y a un aspect tout à fait intéressant de ces questions, c'est le fait que le système mondialiste s'empare de certains symboles qui sont des symboles nationaux ou des symboles de tradition.
Alors vous avez un grand expert pour ça, oui.
Et les transforme en cochonneries modernistes.
Alors, Soros qui fait ça.
Voilà, Soros fait ça.
Alors,
vous avez apporté. Je pensais à ça d'ailleurs à propos de Davos que vous veniez d'évoquer.
Soros était présent à Davos.
Mais le mythe, au sens historique. De la route de la soie, c'est quelque chose de splendide.
Oui.
Moi, j'ai été. Enfin, nous, dans notre adolescence, on a été bercés par le rêve.
Et l'exploitation de ces rêves pour autre chose, pour le détournement.
Et ces espèces de mercantiles de bas étage s'emparent de ce truc et le coche, enfin de bas étage,
de haute volée, de bas étage et de haute volée.
Et le cochonne pour en faire une espèce de saloperie.
Mais il a fait autre chose, par exemple, dans la Bulgarie, puisqu'il s'occupe énormément de la Bulgarie. Il a pris le nom de Rila, qui est le plus grand monastère, pour en faire une société d'informatique. Et dans le dernier libre journal, je raconte ce que c'est que cette société d'informatique. C'est le détournement du travail des ingénieurs bulgares qui sont considérés comme les meilleurs informaticiens, en tout cas de l'ancien Comecon, et certainement comparable aux ingénieurs occidentaux. Ils sont payés pour des misères, comme leurs voisins d'ailleurs roumains sont aussi détournés, parce que aussi ont des capacités dans ce domaine. On les pille aussi, c'est-à-dire qu'on les emploie à des salaires dérisoires qui sont à peine le dixième de ce que touche un programmeur chez nous.
Alors pour montrer, je ne sais pas, est-ce que vous avez apporté la musique de Monsieur Soros?
Non, parce que
les
fois précédentes. Si c'est vous voulez de la musique, on peut écouter autre chose.
Oui, j'aurais bien voulu qu'on fasse la comparaison et qu'on montre ce qu'est la musique traditionnelle bulgare et le genre de cochonnerie d'immondice musicale.
On l'avait fait la fois précédente. Que, pas refaire exactement le
que propose Soros. Mais
oui,
puisqu'on est sur Radio Courtoisie, n'est-ce pas?
Il fallait laisser souffler.
Victoria.
Radio Courtoisie, émission de Serge de Bekech.
Pour une fois, on a pensé à s'annoncer parce que Franck faisait des gestes désespérés.
Je sais.
On va écouter un peu de musique bulgare.
Oui, le même
de la
groupe.
Vraie, de la bonne.
Non, le même groupe.
Ne nous demandez pas les références, on ne peut pas les avoir, ils viennent de là-bas.
Voilà, alors les comédiens harmonistes.
Véronica, 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 elle insiste, Véronica, elle insiste, dimanche singe, tralala, in ganze Welt ist wie gerecht, Véronica, der Spargel will, ach du Véronica, die Welt ist grün, komm lass uns sing, die Wälder ziehen, sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Netz ist da. Ein Mädchen lacht, Jüngling spricht, Fräulein, wollen Sie oder nicht? Draußen ist Frühling. Der Poet Otto Licht hält es jetzt für seine Pflicht. Er schreibt dieses Gedicht. Veronika, der Netz ist da. Die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie perfekt. Veronika, der Spargel wächst, ach du Veronika, die Welt ist grün, und lass uns in die Welt ziehen. Der liebe alte Großpapa sagt zu der guten Großmama, Veronika, der Welt ist. Ta 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 ta. Veronika, der Spargel wächst. Oh, Veronika, Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der junge alte Großpapa sagt zu der lieben guten alten Großmama, Veronika, der Lenz ist da.
Veronika, der Lenz ist da. Die Mädchen singen tralala.
Die ganze Welt ist wie perfekt. Veronika, der Spargel wächst.
C'est le mystère des voix bulgares, ça.
Oui, qui chantent dans toutes les langues. Là, je vous ai choisi deux chansons d'affilée allemande, mais enfin, ils chantent aussi en anglais, en français.
En français.
On écoutera tout à l'heure.
Si.
Ah, bah, je veux bien qu'on écoute de la musique, mais c'est une autre émission. Alors, on fera une émission sur les comédiens harmonistes, ça se mérite. Bien. Alors, on est passé très vite sur Soros, mais j'aimerais bien que vous développiez
sur
le rôle de Soros en Bulgarie, car il me paraît...
Soros est extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'il a en main, c'est une puissance qui est deux fois supérieure à celle du PNB de toute la Bulgarie. Il fait exactement ce qu'il veut. Par exemple, il y a un plan de licenciement des militaires, de restructuration de l'armée.
Comme en France, c'est ce que fait Richard en France.
Mais c'est pas seulement en France, c'est dans toute l'Europe, dans chaque pays, il y a ça. Mais en Bulgarie, c'est particulier. En Bulgarie, il paye les stages de réinsertion des militaires bulgares. C'est-à-dire que les militaires bulgares qui ont commencé leur carrière dans le cadre du pacte de Varsovie, qui sont formés à la soviétique, qui maintenant vont être réinsérés socialement avec l'université, éventuellement Soros. Alors, dans le pays, il est investi absolument partout. Quand vous allez au musée pour voir les costumes folkloriques, il y a une brochure. La brochure est estampillée Soros. J'ai dit que son nom était sur le nom, était Rila pour le nom l'équivalent du Mont Saint-Michel. C'est comme s'il avait acheté la marque Mont Saint-Michel. Il a pris tout l'institut des études slaves qu'il a fichu en l'air, parce qu'il ne s'agit pas de garder le lien avec la Russie, qui est très bien vu dans l'histoire bulgare, parce que les Russes ont été les libérateurs en 1876, et puis parce qu'avec les soviétiques, il y a eu un système qui s'est formé, qui fait que, après les purges dans les premières années, je ne vais pas dire que c'était vivable, mais ils se sont installés dans un cadre qui a fini par leur convenir au bout du compte, surtout après 10 ans de libéralisme forcé, où ils n'ont vu que des inconvénients, c'est-à-dire un appauvrissement dramatique. Autrefois, ils avaient un système social qui leur garantissait éducation, santé, logement, vacances, à l'intérieur du Comécon, évidemment. Tout ça est fini. Ils ne peuvent tenir qu'en faisant venir des légumes de la province.
Mais d'ailleurs, il tirait un bénéfice très très...
Soros
non, pas Soros, la Bulgarie. Et les Bulgares tiraient un bénéfice... Enfin, les Bulgares, je sais pas, mais la Bulgarie tirait un bénéfice certain de cette situation, puisque j'avais ce matin... Jean-Claude Rollina à la maison, qui est un journaliste itinérant de la famille nationaliste, qui collabore à plusieurs journaux, qui est surtout un photographe, et qui est surtout une espèce de globe-trotter. Il me racontait que quand il était allé en Bulgarie, avant la chute du régime soviétique, le pays était l'idée, il nous disait, c'était horrible parce que nous on était partis là-bas pour se dépayser, et quand on est arrivé là-bas, on était entouré de 1000. C'est-à-dire que Tous les
comités d'entreprise,
contrôlés par la CGT, envoyaient leurs adhérents en Bulgarie.
C'est une question que je me pose. Où sont passés les relais?
C'était la bande à 1000.
Tous ceux qui ont connu ça.
Ils n'y sont plus.
Oui, d'accord, mais ils n'ont pas gardé le moindre souvenir du pays où ils ont passé des vacances. Ils n'ont pas la moindre, je dis pas de solidarité, mais enfin la moindre idée d'aller comprendre ce qui est devenu le peuple qu'ils ont vu, même l'espace de vacances.
Ça montre que ce sont ces gens, d'ailleurs.
Oui, mais c'est une grave question que je me pose par rapport à tout ça. Quand je vois le comportement de Robert Rue qui ne s'occupe que de profit, moi ça m'inquiète beaucoup. C'est pas que je souhaite que les... Enfin bon, on va fermer la parenthèse sur ces gens-là.
Mais c'est quand même significatif que...
C'était un lieu de vacances, la mer Noire. Maintenant d'ailleurs, elle est récupérée par l'Allemagne qui a toujours besoin d'aller en vacances quelque part. Et l'essentiel de la mer Noire est squatté par l'Allemagne. Et puis aussitôt suivi par, comme d'habitude, par les voyages Cook et des choses de ce genre, c'est-à-dire les voyages anglais. Les croisières sur la mer Noire et ainsi de suite. Alors, par rapport à la Bulgarie à ce moment-là, elle servait surtout à une chose, elle était le contact principal avec les pays arabes. Dans l'intérieur du Comécon, il y a une sorte de division du travail, et mis à part qu'elle s'occupait pas mal d'armement comme la Tchécoslovaquie à l'époque, elle était chargée des contacts avec les pays arabes. Ça va très très mal depuis quelque temps, parce que le président Stoyanov, qui est libéral, et le premier ministre Kostov ont fait en sorte que les liens soient maintenant tous vers Israël, ce qui déplaît beaucoup aux pays arabes, qui ont donc cessé toute relation avec la Bulgarie. Et il se passe une chose très curieuse dont on ne parle pas du tout, mais on ne parle vraiment jamais de la Bulgarie, donc c'est pas très étonnant. Il y a une prise d'otages d'infirmières bulgares en Libye, et on les accuse donc par Kadhafi qui a servi d'intermédiaire dans une autre prise d'otage récemment, si vous vous rappelez. Et bien lui aussi prend des personnes en otage. Les infirmières, les Bulgares, on les accuse d'avoir répandu volontairement le sida en Libye.
C'est étrange.
C'est curieux. Le monde devient pervers polymorphe. Ouais. On redevient pervers polymorphe. Enfin bon, c'est pour dire que ça ne va plus aussi bien que ça allait avec les pays arabes. Et puis récemment, ils ont aussi jeté dehors un conseiller jordanien qui était un membre d'une fondation koweïtienne. Les Koweïtis investissent énormément en Bulgarie, sans doute à la suite d'un marché suite à la guerre du Golfe. Vous voyez, c'est les circuits. Mmh. Et il a été jeté de Bulgarie, ce qui est quand même signe qu'il devait faire des choses qui ne devaient pas être sympathiques du tout, pour agitation religieuse.
Alors, à propos de jeter quelqu'un d'un pays, je fais une petite parenthèse. Il s'est passé quelque chose.
C'est pour juste donner les derniers événements par rapport à ça. Hein.
Voilà. Une parenthèse pour mais justement, une parenthèse à propos des expulsions de personnes indésirables de certains pays. Il n'y a pas très très longtemps, je crois.
Dont on va reparler, de toute manière, on ne peut pas s'empêcher d'en parler.
Monsieur Soros a prétendu aller mettre ses grosses pattes sur la Slovaquie, si je me souviens bien.
Oui, ça n'a pas bien marché. La Slovaquie, c'est l'autre pays de l'Est dont on ne parle jamais, pour des raisons qui ne sont pas faciles à expliquer. On a scindé le pays en deux, tout le monde a crié au miracle, et en fin de compte, ça ne se passe pas très 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 bien. Il se passe des choses étranges à Prague, donc dans la partie tchèque, avec des changements de population, 15 000 Américains à Prague, pourquoi ? Et quel genre d'Américain ? C'est aussi une question.
Oui, c'est une question.
Bah, oui, il y a des changements brutaux de population un peu partout en Europe. On ne voit pas bien d'où ça vient. À Berlin, il y a d'énormes changements. C'est en Allemagne.
Oui. Pour l'instant.
Pour le moment. Il y a d'énormes changements de population.
Oui. Oui, mais ça, c'est un peu normal, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient partis il y a 50 ans.
Ils viennent de Russie, ceux-là.
Voilà, mais il faut qu'ils reviennent. Mais, alors, donc, en ce qui concerne Soros viré de Slovaquie, il s'est passé une chose curieuse, c'est que Soros a été chassé de... Enfin, il a été prié de quitter la Slovaquie, parce que on pensait que le travail qu'il faisait n'était pas conforme aux intérêts slovaques. Et quelques temps après, il s'est passé un événement qui n'était jamais arrivé dans ce pays. Il y a eu une profanation de...
Une synagogue ou de cimetière?
De synagogue.
Vous pensez que c'est lié ou pas?
Non, je ne sais pas, je constate, parce que...
Parce que Soros s'occupe surtout de tolérance et de open society, de société ouverte, et qu'il impose absolument partout, d'une manière très forte.
Je veux dire que si on avait eu besoin d'une preuve que la Slovaquie n'est pas un pays tolérant, le fait qu'ils aient viré Soros, c'était pas suffisant.
Tandis que là,
on se met à profaner des synagogues ou des cimetières israélites,
c'est une question très intéressante.
La Slovaquie, ça devient la preuve que la Slovaquie n'est pas un pays tolérant, et que, comme disait le journal à propos de la Grèce, la question se pose finalement de savoir si le moment n'est pas venu de rendre à la Slovaquie son vieux nom de province ottomane de Slovaquie.
Ils étaient ottomans en Slovaquie ?
Je ne sais pas, mais enfin, on peut très bien décider qu'ils l'étaient.
Non, mais on va décider tout et le contraire de tout par rapport aux différents peuples. Mmh. Par contre, l'histoire de la tolérance est tout à fait importante.
Parce que nous explique bien que toute notre culture vient des Arabes.
Oui, mais
les chiffres sont arabes.
Moi, ce que je pense, quand j'ai parlé avec les Bulgares, c'est que la France a servi de laboratoire dans un premier temps, il y a une quinzaine d'années par rapport au front. Il y a tout le mouvement montant appelé populiste ou je sais pas quoi. Il y a eu 30 qualificatifs qui se sont succédés. Et on a vu que c'était des opérations de diabolisation qui marchaient très très bien, qui permettaient d'obtenir certaines choses. Maintenant, ce genre de problème se déplace un peu partout.
De solution plutôt que
de solution, oui. Enfin, il crée le problème.
C'est-à-dire qu'on vous explique partout que le danger... En Autriche, c'est quand même monsieur
Heller. En Autriche, je vous en reparlerai dans deux secondes par rapport à ça, mais en Bulgarie, il y a une fondation pour la tolérance qui est patronnée par un monsieur Eli Cohen, qui regroupe des choses totalement inconnues, l'avant-veille, des témoins de Jéhovah, ça existait, c'était d'ailleurs une religion normale. À l'Est, elle n'était pas très aimée, mais à peu près acceptée. Les moulinistes, c'est quand même extraordinaire. Après avoir fait pendant 20 ans profession anticommunisme, ils sont réapparus sans qu'on comprenne exactement pourquoi.
Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas extraordinaire, c'est que chaque fois qu'il y a un lézard dans les milieux nationalistes ou dans les partis nationalistes d'un pays, vous voyez les mounistes. En France, quand même, avant l'explosion du Front National, il y a eu l'infiltration du Front par des mounistes. Je suis quand même curieux de retrouver ça.
Un petit peu pas au hasard, parce que j'ai ma liste des différentes associations religieuses qui étaient là, mais je n'avais pas pensé à ça. Il y a énormément d'églises nouvelles du dernier jour, du premier jour, et ainsi de suite. Des choses totalement inconnues qui sont apparues, une cinquantaine, qui ont signé cette charte pour la tolérance. Et la tolérance est la manière dont on souhaite contraindre les Bulgares, comme en Grèce, toute proportion gardée, on souhaite contraindre les Grecs orthodoxes en leur faisant renoncer leur
à la mention de leur identité sur la carte nationale.
On souhaite les pousser sous prétexte de tolérance vers une identité plus floue, et l'identité plus floue permet d'obtenir des avantages matériels bien précis.
Donc si je comprends bien, la route de la soie sert à diffuser des idées de lutte contre l'antisémitisme.
Ah oui,
ça fait partie du programme
officiel. J'ai découvert ça il y a deux jours, justement.
C'est le programme officiel de l'acte fondateur de la route de la soie.
Et l'histoire de la tolérance, ils y tiennent absolument. Les Bulgares tiennent à montrer qu'ils sont un peuple tolérant, et ce qui est d'ailleurs la réalité. Quand vous imaginez qu'ils...
La preuve, c'est qu'ils vous ont toléré pendant 15 jours, quand même.
Oui, mais je me suis pas trop mal intégré, il faut bien voir.
Alors, revenez à Soros, dites-nous
mais
encore.
Attendez, mettez des sous-titres, parce que nos auditeurs se plaignent de ne pas savoir très bien qui est Monsieur Soros.
Soros est un milliardaire américain, né en Hongrie, apparu, il s'est mis à fonder des...
Américaines.
Une kyrielle d'associations au lendemain des accords d'Helsinki. Et son siège se trouve non loin de la fondation Rockefeller.
Il faut savoir que c'est l'homme qui a réalisé les plus grosses spéculations
sur les livres, le franc, les monnaies, qui a été très menacé.
C'est d'ailleurs un cas unique, parce qu'au départ il n'avait pas du tout d'argent. Et puis d'un seul coup il s'est mis à jouer sur les monnaies. Alors moi qui n'ai pas du tout d'argent, je sais ce que c'est quand même. Pour jouer sur les monnaies, il faut en avoir un peu au départ.
Il est omniprésent dans toutes les questions de l'Est. Chez les Russes, chez les Tchèques.
Et alors ils montent des fondations, ils sont toujours des fondations pour la tolérance,
oui.
pour la liberté progrès, de la presse, pour la liberté de la presse. D'ailleurs, ils achètent tous les journaux pour être sûr qu'ils sont libres. Il achète des universités.
Par exemple, il y a une radio, c'est une chose très étrange qu'on ne comprend pas vraiment très bien. Il y a une radio à Belgrade. C'est une radio américaine qui a fonctionné pendant la guerre, dont on nous dit là actuellement qu'elle est interdite par Milosevic, mais ça fait partie de ces questions très très difficiles à résoudre, de savoir s'il y a ou non convergence, connivence entre les anciens leaders communistes et le pouvoir américain. Et il n'y a pas de réponse nette en réalité.
Je crois qu'il n'y a pas de réponse, mais il y a au moins une approche de réponse. Il suffit de voir ce qui s'est passé au moment du débarquement américain en Sicile, à la fin dans les années 44. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils sont arrivés, les premiers avec lesquels ils se sont entendus, c'est avec le chef de la mafia.
Absolument.
Bon, quand ils débarquent en Sicile, ils s'entendent avec le chef de la mafia pour réussir leur débarquement. Quand ils débarquent en Europe, ils s'entendent avec le chef de la mafia pour réussir leur débarquement en Europe, si j'ose dire. Et quand ils débarquent en Europe centrale ou dans les pays de l'Est, ils s'entendent avec les chefs de la mafia. Qu'est-ce que c'est que la mafia? Les mafias des pays de l'Est, c'est tout simplement les anciens chefs communistes qui ont transporter, modifier en quelque sorte les structures de pouvoir que leur donnait.
C'est pas vrai partout, mais c'est vrai dans certains.
C'est quand même un peu ça.
Il y a toujours la même chose. Vous n'avez pas les idiots utiles, mais ceux qui ont pensé sincèrement à l'intérieur du système fonctionner selon les règles, et vous avez les autres qui organisaient de manière beaucoup plus dure le pouvoir et qui après ne se sont pas du tout gênés pour faire l'évasion des capitaux.
Mais il faut quand même indiquer que, par exemple, au Kosovo, les forces, ça c'est pas moi qui le dis, il y a un rapport officiel de l'OTAN qui établit, et puis surtout diverses organisations, ce rapport officiel établit que la propriété matérielle, financière des bordels dans lesquels sont esclavagisées des femmes albanaises ou des femmes de toutes origines qu'on vend aux soldats des forces d'occupation de l'OTAN actuellement au Kosovo, la propriété matérielle et financière est entre les mains d'un petit groupe d'officiers de la CAFOR et d'administrateurs de la CAFOR. Ça a été prouvé, l'accusation en a été lancée, il y a des gens qui ont été arrêtés pour ça.
Ça n'a pas beaucoup fait bouger
le... Personne n'en a parlé, le petit docteur Kouchner n'en a pas pipé mot. Et on voit bien qu'il y a une imbrication extraordinaire entre les mafias, les administrations apatrides, les forces armées d'occupation,
Alors,
et c'est constant. Ça
là, c'est une situation de guerre. Mais dans la situation de paix théorique que connaît la Bulgarie, en fait, c'est la guerre économique qui compte. Et c'est aussi une mafia. Simplement, c'est une mafia plus civilisée. La Bulgarie est une des voies de passage les plus importantes de la drogue. C'est-à-dire, la drogue vient de Turquie, d'Azerbaïdjan. Passe par la Turquie, remonte par la Bulgarie et va jusqu'en Russie en passant par l'ancienne Tchécoslovaquie, la Moldavie auparavant, l'Ukraine aussi. La réalité du pouvoir politique en Bulgarie, c'est la corruption.
Ça veut dire aussi ce que vous venez de nous dire, que la drogue suit exactement la route des produits manufacturés.
Elle est même, oui.
Et des produits, et des énergies.
Et des conseillers du FMI.
Le corridor numéro 8, qui sert, ou qui servira.
Oui, qui n'est pas encore tout à fait fait, qui va traverser les Balkans d'est en ouest ou d'ouest en est, enfin de manière transversale pour relier la Méditerranée d'un côté et la mer Noire de l'autre.
Il va servir à transporter de l'énergie, des matières premières,
les capitaux,
des prostituées, de la drogue,
les capitaux de manière générale,
sales ou propres.
L'énorme problème que l'on a aujourd'hui, c'est que l'économie du crime est supérieure à l'économie légale des gouvernements en poids. Et on le sait. Enfin, il y a de temps à autre, il y a des rapports Winbeck ou autre.
On nous a demandé d'expliquer qui était Soros. Je ne sais pas si ça explique ce qu'est Soros.
Soros, c'est peut-être un prête-nom en réalité. En fait, c'est quelqu'un, c'est un individu qui a été vu chez Madame Anne Sinclair en son temps, de manière splendide.
J'ai vu le film aussi,
sans doute, je sais pas, mais j'ai même pas la télé, mais je me rappelle avoir. C'est possible.
C'est pas de poser des questions, moi non plus, je regarde
jamais
la télé.
J'ai pas suivi tout son parcours, mais je me rappelle de cette émission-là, qui suivait une avec Chevardnadze, qui était aussi un type un peu étrange. Lui, c'est un tueur pur et simple, on le sait, mais bon.
Il est géorgien, à peu près, comme
Soros et Hongrois. C'est dans cet ordre d'idée-là.
Mais on a l'impression, à travers ce que vous nous dites, qu'il y a...
Oui, c'est un prêtre. Non, enfin, il y a des structures derrière. Ouais. C'est toujours suivi par des conseils politiques bien précis, c'est encadré par des gens connus, Berzinski, Albright.
Mais c'est un personnage à la... Comment s'appelle ce type qui est mort, là, qui s'est noyé?
Maxwell.
C'est un personnage à Maxwell.
C'est exactement le même genre de choses. À la Murdoch aussi. C'est-à-dire des gens qui sont brusquement à la tête d'un pouvoir immense. Sans qu'on comprenne exactement les racines.
On pourrait se poser la même question qu'à propos de l'avortement. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens? Moi, je sais pas. C'est bizarre. C'est peut-être la première lettre. On peut penser que la première lettre, c'est M, Murdoch, McClellan, mais avec Soros, ça marche pas.
Je vais vous parler d'un autre, Boshkov. Boshkov, c'est un vice-premier ministre. C'était un vice-premier ministre il y a pas longtemps, directeur de l'agence de privatisation en Bulgarie. Ouais. Alexandre Boshkov.
Ça, c'est une bonne planque, quand même. C'était l'homme qui vendait l'industrie bulgare à des investisseurs privés.
À des copains,
ses
en
amis.
Réalité. Et bon, j'ai déjà raconté l'affaire Balkanair, la compagnie aérienne, 40 avions vendus 150 000 dollars, une tour de contrôle, des hôtels et beaucoup d'autres choses en plus.
Alors, il faut dire, c'est parce que ça paraît, 150 000 dollars, ça paraît un chèque énorme.
C'est à peine le prix d'un moteur.
C'est le moteur d'un des 40 avions, à peu près.
Voilà. Bon, tout c'était peut-être pas en état, il fallait de l'entretien, c'est entendu, mais enfin, c'était une compagnie qui tournait et qui pouvait faire des choses.
Ça a été fait au moins pas plus que les autres.
Non, pas du tout. Vous avez, il n'y a jamais eu d'affaires particulièrement sanglantes par rapport à Balkanair. Donc, pour 150 000 dollars, avec le personnel, ça a été vendu au creux du mois d'août de l'année passée. Donc, là aussi, les mauvais coups se font au mois d'été, en Bulgarie. Et c'est un mauvais coup, c'est un des nombreux mauvais coups, parce que quand vous avez quelque chose... Remarquez, chez nous, on a bien failli vendre une entreprise pour un franc symbolique à un Coréen.
Qui avait fait ça? C'était M. Juppé, non?
Oui, c'est un peu le même genre de méthode, des privatisations...
Enfin, comment dites-vous? Boshkov. Lui,
Alexandre,
il a pris
Boshkov.
Du fric dans cette histoire. Je pense pas que Juppé...
Pas dans cette histoire, on ne sait pas, mais en tout cas, il a beaucoup aidé la carrière de beaucoup d'autres, et puis ces temps-ci, ça commence
à être... Mais il est en prison, quand même.
Non, il n'est pas en prison. Il a été destitué. Enfin, il n'a pas été destitué. On l'a changé de poste dans un premier temps. On l'a mis comme négociateur de la Bulgarie face à l'Union européenne pour l'intégration de la Bulgarie dans l'Union européenne.
C'est sûrement un honnête homme. Alors,
c'est forcément un honnête homme. Mais là, il s'est révélé une autre affaire. Il y en a eu beaucoup d'affaires Boshkov. On l'a appelé Monsieur 10% dans les cafés à Sofia.
Ça devient beaucoup, 10%.
10% sur, enfin bon. Sur 150 000 dollars, c'est peut-être pas tant.
Ça, c'est pas grand-chose, non, mais.
Cela dit, par rapport, mettez ça en rapport avec le salaire moyen, encore une fois.
Non, mais c'est peut-être.
Parce qu'on rit, mais pensez que je vous ai dit, 40% des Bulgares, ont, 300 et quelques francs au maximum.
Mais il y a une autre hypothèse.
Ils ne peuvent rien faire avec les 300 francs.
Que vous n'avez pas envisagé. Il y a une autre hypothèse, c'est que si on appelle monsieur 10%, parce que ces 10%, c'est ce qu'il donne à son pays une fois qu'il a réalisé une affaire. Donc peut-être que les 150 000 dollars, c'est 10% de ce qu'il a touché pour, filer Balkaner.
Bon, Balkaner, ce n'est que une des nombreuses choses qui ont été privatisées à la va-vite. Là, ces derniers temps, il y a eu la flotte de pêche. La flotte de pêche qui a été donnée pour aussi des sommes très très basses, et alors que les marins n'étaient pas payés depuis plusieurs mois, on a découvert une caisse, un compte en Angleterre. Bon, tout ça, j'en parlerai dans le libre journal, parce que c'est des choses dont on ne parle absolument nulle part.
Un type qui ouvre un compte privé, un compte secret en Angleterre, c'est pas
plusieurs millions de dollars. Hein.
Ah oui, mais enfin, il n'est pas très futé, il y a d'autres pays, quoi. Les Caïmans.
Oui, oui, ben ça devait être certainement cette Angleterre-là.
Monaco. C'est la différence entre Monaco et le Luxembourg. C'est quasiment la même chose.
C'est quasiment la même chose.
Bien, donc, je sais pas si on a bien
non, mais
expliqué
qu'il y a beaucoup de choses sur les ministres, sur Mihailova, qui est la ministre des Affaires étrangères.
Oui, qui est intéressante aussi.
Qui est intéressante parce que, quand même, le lendemain de l'effondrement du mur, où est-ce qu'on la retrouve? On la retrouve dans une université américaine. Et puis, très très jeune, hein.
Alors que c'était une pure stalinienne.
Elle était traductrice, elle était, on ne sait pas exactement, journaliste freelance, disait-on.
Ah, ça, en Bulgarie, il doit y en avoir des paquets, oui, effectivement.
Pas énormément à l'époque, donc ça c'est la biographie, et du jour au lendemain, elle se retrouve ministre des Affaires étrangères à 30 et quelques années, à peine. Et elle déploie une énergie fabuleuse. Et
elle n'a pas fait la même découverte que Mme Albright dans son passé, non?
Pas impossible, en 3 ans comme Mme Albright, c'est pas impossible. Je ne sais pas. Ouais. Enfin bon, vous comprenez que les gens ont des carrières soudaines, impossibles à comprendre pour le public, qui voient arriver des gens des coins inconnus de la société bulgare et qui voient ces gens brusquement donner les entreprises qui fonctionnaient. Encore une fois, ils étaient les premiers pour l'informatique, les premiers pour les télécoms. Je raconte aussi dans le dernier libre journal comment les télécoms sont bradés. Et c'est une chose essentielle dans la région, dans la mesure où les trusts qui essayent d'accaparer le marché des télécoms sont déjà propriétaires du marché en Grèce, au Kosovo et dans tous les Balkans. Mmh. Donc ce sont les enjeux réels de la guerre du Kosovo et de cette guerre économique.
Oui, ce qu'on comprend, c'est que, en fait, le mondialisme est en train de s'installer dans ces régions-là, est en train d'installer un impérium sur ces régions, et il place des pions, des agents, des proconsuls, des gaulaiters, à lui. Alors, on a un Kouchner qui est gaulaiter d'Albanie, ou du Kosovo, on a un Bochkov qui est gaulaiter en Bulgarie, on a...
Vous aviez aussi Wilhelm Krauss, qui était le ministre des Transports à l'époque.
C'est bulgare, ça.
C'est pas très bulgare.
Comme les remarquez, à partir du moment où vous expliquez que les comédiens harmonistes sont bulgares, je suis prêt à croire que tout le monde est bulgare. Moi,
mais
Wilhelm Krauss.
Oui, son fils s'est retrouvé au moment où il était ministre des Transports, propriétaire de la compagnie des autocars de Sofia.
Bah oui, c'est
toute nouvelle créée avec des autocars achetés en Hollande. Parce que ce qui est très intéressant aussi, c'est quand vous suivez tout ça, c'est de voir le balai infini des pays comme la Hollande, le Portugal, la Grèce, qui chacune vient taper à la porte pour obtenir quelque chose d'un pays qui n'a déjà plus d'argent, dans la mesure où l'essentiel de l'argent s'est évadé au lendemain de la chute du mur, ou de l'écroulement du bloc de l'Est.
Alors, il y a une chose qui m'avait beaucoup amusé quand vous êtes rentré de Bulgarie, c'est que vous m'avez montré des photographies, on en a publié une d'ailleurs dans le Libre Journal, qui montrent, pour moi, cette photographie, elle symbolise absolument l'invraisemblable arrogance du marché mondialiste.
Yaourt.
C'est l'histoire des yaourts. C'est-à-dire que La Bulgarie, c'est le pays du yaourt. Si vous demandez à n'importe quel crétin dans la rue, il n'y a pas que des crétins dans la rue, mais il y en a quand même pas mal, Bulgarie vous dit yaourt, yaourt au goût bulgare. Bon, tout le monde sait ça. Il y a le mystère des voix et le yaourt. C'est deux produits...
C'est deux choses qui sont plus bulgares, justement.
Voilà. Et alors, on voit arriver... quand on arrive à Sofia, vous m'avez raconté, vous m'avez montré des photos...
Ah ben c'est sur une des places essentielles de Sofia. On voit tous les bancs repeints en blanc avec le macaron Danone.
Danone.
Mais Danone était déjà présent depuis quelques années en Bulgarie.
Oui, mais probablement
ils
acheter des matières
premières. Ils achetaient les ferments lactiques qui sont très importants pour la composition du yaourt.
Alors encore,
ils ont sans doute épuisé ces ferments lactiques.
Ça c'est extraordinaire.
Et parce qu'on ne voit plus le yaourt bulgare tel qu'il existait.
Les paysans bulgares n'ont plus les moyens de fabriquer,
les moyens de grand chose. Par exemple, il y a d'autres problèmes, la déforestation. On sait qu'il y a des grandes compagnies qui, un peu comme en Bosnie, font de l'exploitation, on va dire illégale, mais hors normes de forêts entières. C'est récent.
Ils coupent les forêts.
Oui.
Et personne ne peut les en empêcher parce que...
C'est des questions que se pose le bulgare moyen qui ne sait pas d'où ça vient, pourquoi et comment. Tout ça, c'est... On peut tout vendre dans un pays. C'est justement ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que l'on voit en accéléré ce qui s'est peut-être passé chez nous sur 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, donc on s'y est fait. Mais là, ça paraît en 3-4 ans. Il y a un précipité, si vous voulez.
Alors, symboliquement, cette histoire de Yaourt Danone, elle me paraît très, très importante.
Cette marque imposée, c'est la méthode Soros en même temps. Ouais. C'est-à-dire... À partir du moment où vous êtes propriétaire de la marque, vous dites que c'est vous qui avez créé le concept, la chose est à vous de toute éternité. Bon, et puis Danone, c'est peut-être pas excellent. Ça a peut-être été très bon autrefois, mais c'est...
Je sais pas, mais j'imagine que les Bulgares ont dû être surpris qu'on leur livre des yaourts Danone. Et quand je vois France, par exemple, l'autre jour,
pas grand-chose.
Quelqu'un expliquait que la plupart des vins vendus en France appartiennent directement ou indirectement à Monsieur Bronfman, qui en est en réalité le distributeur quasi exclusif. Par exemple, les Bordeaux, Barton et Gaîtier sont...
Il faut peut-être prendre le Cabernet bulgare, il est excellent.
Voilà, alors il faut boire du Cabernet bulgare sur lequel Monsieur Bronfman n'a pas encore mis ses pattes.
À moins que ce soit déjà fait, c'est très possible.
Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas de nouvelles de ça directement.
Les tomates aussi. J'avais parlé des tomates. Les tomates bulgares étaient réputées partout, comme le yaourt. Maintenant, elles sont produites en Turquie. Comme nos tomates à nous autrefois étaient excellentes, mais elles sont faites en Hollande maintenant.
Oui,
depuis un bon moment.
Elles sont faites dans des cultures hydroponiques.
Oui. Voilà, sur étage, qui n'ont plus de contact avec
mais
la terre.
On peut avoir l'impression que tout ça, toute cette conversation, fait allusion à des faits qui sont des faits désincarnés. C'est-à-dire, c'est des faits économiques. On a l'impression qu'il n'y a pas d'effet direct sur
derrière.
La population.
Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout cela est tout à fait voulu. D'abord parce que le million de Bulgares qui ne résident plus en Bulgarie, chassés par la pauvreté, c'est sans doute voulu. 80% des jeunes Bulgares actuellement n'ont qu'une seule idée, c'est d'aller ailleurs. Ils apprennent des langues étrangères et qu'ils parlent très très bien.
Dans les slaves,
je sais pas.
C'est un talent slave de parler les langues étrangères.
Mais
vous devriez le savoir, c'est un des vieux truismes qui court partout. Ah, mais vous êtes russe, donc vous parlez bien l'étranger.
Oui. Oh, voilà. Mais c'est très vrai.
Mais c'est vrai, bien sûr. Alors,
mais donc eux sont poussés sans doute hors de leur pays, et pendant ce temps-là montent de Turquie. Des nouvelles populations qu'on ne maîtrise pas puisqu'il s'agit d'ouvrir de plus en plus les frontières.
Mais là,
il y a une libre circulation qui est obligatoire maintenant entre la Turquie et la Bulgarie.
J'essaie de vous pousser à raconter l'histoire du vieux monsieur qui se nourrissait de fromage. Parce que
c'est pas n'importe qui. Là aussi, il faudrait que tous les auditeurs s'abonnent au Libre Journal, puisqu'on a le temps de développer, on écrit beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire rapidement, même ce soir où on a le temps. Je suis loin d'avoir dit tout ce qui a été écrit dans le Libre Journal. Nicolas Haitov, le président des auteurs bulgares, de la société des gens de lettres bulgares.
Qui est considéré comme un des plus grands écrivains de langue bulgare.
Oui. Qui est le plus lu, qui a été tiré déjà à 4 millions d'exemplaires. Il faut voir sur 8 millions de d'habitants, c'est pas mal.
C'est énorme. C'est fou.
Il lit beaucoup.
Ses livres sont présents dans tous les foyers de
Bulgarie. Il l'était. Mais non, parce que maintenant, il n'est plus édité depuis plusieurs années. On prétexte des absences de papier. Encore une fois, rappelez-vous qu'il y a la déforestation à ce moment-là. Ou par le bois, on ne sait pas. Et Nicolas Haitov m'a reçu dans les locaux de Novazora, j'en ai déjà parlé ici une fois. C'est le journal équivalent du Libre Journal à Sofia, c'est-à-dire un journal de résistance. Et il a expliqué comment est mort son frère. qui avait 2-3 ans de plus que lui. Lui, il en a 80, donc il avait 82 ans. C'était un solide gaillard. Nicolas Itoff est lui-même un solide gaillard. Mais il ne mangeait plus que du fromage. Et il a appris un soir que le prix du fromage avait décuplé. Décuplé, comme ça, parce que...
Dans la journée, le prix du fromage a été multiplié par...
Il est rentré, tracassé, il savait qu'il ne pourrait pas...
Qu'il allait mourir de faim, tout simplement.
Il est mort la nuit, comme ça il n'est pas mort de faim. Mais sans doute, il ne devait pas manger beaucoup, puisque... Et donc, ce que m'a dit Nicolas Itoff par rapport à son frère, c'est que c'était le cas de beaucoup de vieillards en Bulgarie, actuellement, qui mouraient de stress ou de faim. De froid, parce que par exemple en avril, quand j'étais en avril dans les hôtels, il n'y a pas de chauffage. Or, le soir, ça tombe en dessous de zéro. C'est une ville de montagne, hein, Sofia, enfin, c'est pas très loin de la montagne. Moi, ça ne m'a pas spécialement gêné, mais j'ai entendu une ou deux petites choses sur l'hôtel pour quelques occidentaux de passage. Et... Voilà, pour Itoff et pour la situation générale des gens en Bulgarie.
Oui, je fais des signes à Franck parce que je me demandais si on avait le temps d'écouter de la musique. On va écouter un petit peu pour saluer...
Je reviens 5 petites minutes, là j'ai 2-3 auditeurs.
Oui, après on vous donne la parole, après la musique ou avant, vous préférez?
On va faire tout de suite.
Alors faites ça tout de suite.
Tout ce que vous nous dites sur la Bulgarie aujourd'hui concerne aussi la Pologne. Toute la richesse de la Pologne est passée entre les mains des mondialistes.
C'est
le peuple est
vrai.
Appauvri en général. Évidemment, il y a des mafiosos très riches, il y a des oléoducs. Des Monsieur Soros et beaucoup d'argent grâce au Mossad.
Ça, je ne sais pas.
Il n'y a pas de rapport.
C'est comme dit la dame, là.
Ah bon. Mais c'est certain que l'essentiel des pays de l'Est sont sur la même trajectoire, oui.
Et alors, il y a des questions à propos des comédiennes harmonistes, donc, puisque c'est eux. Je croyais que vos chants bulgares étaient américains. On aurait dit les Golden Quarks.
Mais c'est un univers cohérent intellectuellement.
Et on vous dit, je croyais que les comédies harmonistes étaient allemands. Qu'en est-il?
Attendez, il faut expliquer quand même ça. Les comédiens harmonistes, ils sont de toutes les nationalités. Voilà.
Et alors, ils nous disent, voilà. Vous ne pouvez, parce que j'ai dit qu'on ne pouvait pas avoir ce disque parce qu'il venait de là-bas.
Mais
on m'a dit, il y a les comédiennes harmonistes repris par un groupe anglais de King's Singers.
Oui, très beau.
A repris donc tous ces chants et ses références. Alors écoutez
moi, je pensais que c'était intéressant parce que c'est la vieille Europe.
Et mi. Référence CDC7 47. 67, 72, ou 47 667, 2.
Ah bah dites donc, qu'est-ce que
voilà, alors avec ça,
la vieille Europe tout. Inclut aussi les chants américains, des années 50 ou avant, oui.
Pourquoi ne parlez-vous jamais que de la France qu'autrement que pour la dénigrer?
Qui donc?
Tout patron d'émission confondu. Il serait peut-être temps de parler pays, voilà.
Un autre pays,
c'est quelqu'un qui vous attaque.
C'est un malentendu, c'est tout. C'est malentendu au sens. Vous nous entendez mal, monsieur, c'est tout ce que je peux dire.
Eh bien, en parlant de la Bulgarie, je parlais aussi de la France. Comme aurait dit Victor Hugo.
On nous demande de redonner donc les références du disque par conséquent. Je vous les ai données. Les références, non. Ça, on ne peut pas, parce que l'autre, on ne l'a vraiment pas. Je rappelle que le 22 juillet, Mgr Reilly, prélat américain qui a fait fermer aux USA une cinquantaine de cliniques d'avortement, dira la messe à 11h15 à Notre-Dame du Lys, puis qu'il y aura ensuite une manifestation de prière contre l'avortement au carrefour Regnault Château des Rentiers, près de la clinique Jeanne d'Arc, à 14h15. Je rappelle à cette occasion l'adresse du docteur Deur, SOS Tout Petit, boîte postale 243-08, 75364, Paris Cedex 08, et le téléphone 01 47 83 97 42. Il publie une revue qui s'appelle SOS Futur Mère et aussi des tracts réponses à faire aux partisans de l'avortement. Vous pouvez donc les obtenir en téléphonant au numéro que j'ai dit. Et puis, pour l'ostension du Saint-Sphère de Turin, ça se passe du 12 août au 22 octobre. Alors, pour le voyage organisé, vous pouvez téléphoner au 01 45 48 67 15. Et si vous voulez venir individuellement, pour prendre un rendez-vous, c'est le 08 00 90 76 74. Il paraît que Serge, vous avez sournoisement employé des gros mots pendant que je vous écoutais.
Moi
pas. que je recherche. Vous avez dit bordel?
Oh. Ah ben comment vous voulez dire? Oh. C'est des maisons de passe. Moi,
oh,
je...
que c'est
ça, laid. C'est, très... c'est pas laid.
Moi, je n'écoutais pas.
Non, mais
parce
attendez.
Que
depuis... Entendons-nous, ma chère Victoria.
C'est pas moi qui suis choquée, c'est l'auditeur qui me défend. Là,
mais il faut...
je n'ai pas pleuré.
Il ne faut pas être du tout choqué. Le mot que vous venez d'employer, s'il est employé sous la forme d'une interjection de colère ou d'insatisfaction, c'est grossier. Mais à ce moment-là, je vous signale que bon Dieu, c'est exactement la même chose.
Oh, que c'est encore plus...
Bon Dieu, c'est un mot magnifique, mais quand c'est dit sous la forme d'un juron, c'est un blasphème et qui est puni par la mort éternelle. Eh bien, bordel, c'est la même chose. Bordel, c'est un mot qui désigne un établissement spécialisé et... Il n'y a pas d'autres mots, il y a, je vois pas, c'est un très vieux mot de la langue française, et quand il est utilisé comme, un juron, alors effectivement ça devient grossier.
Quand vous l'avez employé?
Non,
moi,
non.
Ce n'est pas que je n'étais pas là. J'étais en train de me faire une petite récréation personnelle parce que depuis que tout à l'heure le docteur, votre ami Raffard de Brienne nous a parlé de l'ostension, j'avais des vers de Baudelaire qui me tournaient dans la tête, alors je me les suis récités, qui m'a fait grand plaisir. Bon.
Voilà, ça vous voyez comme vous les intéressez, vos auditrices, elle est devant vous, et pendant que vous racontez la Bulgarie, elle se dit du Baudelaire.
Ça m'a duré 5 petites minutes, allons.
Bien.
Allons.
Alors ce que je vous propose, Michel, oui, vous avez fini, Victoria?
J'ai deux petites annonces.
Vite, alors.
Fait vite. Alors, samedi 8 juillet, Yves Germain dédicacera ses ouvrages sur l'interprétation de l'Apocalypse à la librairie Saint-Nicolas, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, de 15h à 19h. Ensuite, un concert donné par Sarah Soularue, organiste, le 9 juillet à 17h30, en l'église Saint-Étienne-du-Mont, œuvre de Bach, Tournemire, Duruflé, et c'est une entrée libre.
Enfin quelque chose de libre.
Le 21e siècle sera-t-il musulman? C'est le thème de la 9e université d'été de Renaissance catholique, au château d'Urigny, près de Mâcon. Et vous pouvez avoir tous les renseignements au 01 46 62 97 04. Ça se passe du jeudi 13 au dimanche 16 juillet prochain.
Et c'est bien, c'est moi j'y serai. Et je vais y passer les 4 jours parce que c'est un endroit merveilleux. On va aller avec ma petite femme, voilà, on va se reposer, on va écouter des conférences.
Pensez qu'à vous reposer.
Oui, moi j'aime bien me reposer. Je suis un Paris.
Bien de se reposer.
Alors, Michel, avant de terminer, on écoute, si vous voulez, un petit morceau de musique.
Avec plaisir.
Plus que 5 minutes déjà. Oh là là. Et puis après, il vous restera 3 minutes pour nous parler de Nova Zora.
Oui, bien sûr.
Non, mais je voudrais
c'est,
que vous
c'est dommage de ne pas s'occuper plus longtemps de la Bulgarie de manière générale. Il y a énormément de choses.
Ben oui.
Et on peut comprendre énormément de choses par rapport à ça.
On n'a même pas parlé de la moitié des sujets qu'on...
Et si on parlait en plus des autres pays de l'Est, ou même de l'Italie, où il se passe d'autres choses, de l'Allemagne, de...
Ben,
si on s'occupait... Non, pas moi, pas spécialement. Mais j'aimerais bien que quelqu'un d'autre revienne.
Il faut faire l'Europe tout de même.
Oui, exactement. Mais c'est ce que j'ai à proposer. C'est l'Europe des nations, la vieille Europe, face à la nouvelle telle qu'elle se fait. Et justement, ce que j'essaye de montrer avec le libre journal écrit, et que les gens lisent, ce journal qui est après tout un excellent journal, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'ils nous font, et pourquoi, et qu'est-ce que ça donne, et tout ça ne nous est pas raconté dans la presse normalement, j'aimerais bien savoir pourquoi. Par exemple, j'ai vu des gens de presse française qui ne sont pas intéressés par ça, qui bouclent leur dossier habituellement, sans trop chercher à comprendre qu'est-ce qui est quoi, qui vous disent que Berzinski n'est pas au gouvernement, par exemple, ce qui quand même me fait bien rigoler. Le gouvernement américain.
Ils sont déjà bien informés.
Oui, ils sont bien informés, en effet. Ils comprennent tous aussi très bien comment les choses se font.
C'est peut-être pas la peine d'être rédacteur en chef d'un des plus grands...
Je ne sais pas de qui il s'agit, je ne vois pas de qui vous parlez.
Dites-moi, Michel, vous avez eu la gentillesse de dire du bien du libre journal.
Oui,
est vraiment
mais je peux dire encore plus de bien d'un autre journal.
Voilà. Il y a un libre journal en Bulgarie.
Nova Zora, ceux qui m'ont reçu un peu guidé, mais qui m'ont guidé intelligemment, c'est-à-dire qu'ils m'ont rien imposé, ils m'ont montré des choses, ils m'ont dit tu te débrouilles, tu vois ce que tu veux, et j'ai rapporté les reportages différents d'entretiens. Dans le prochain numéro, il y aura un entretien avec un professeur anciennement marxiste, ça va peut-être un peu...
Guéri.
Ben non, c'est pas sûr.
Ah bon.
C'est pas sûr du tout. Il a sa grille d'analyse, elle est pas stupide. Il ne croyait pas forcément au bolchevisme, il ne croyait pas au monde radieux, mais il était dans une société construite et il voyait les choses d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, on l'a beaucoup dit sur cette radio, c'est le point de vue.
Alors, Nova Zora, le directeur, c'est le fondateur
Mincho
directeur. Mincho,
depuis 10 ans, il se maintient contre vent et marée. Il a actuellement un problème.
Qu'est-ce qu'il faisait avant, dites-le. Parce que...
Ah, c'était un poète, mais avant d'être poète, ou poète, il l'a toujours été, il a été beaucoup lu en Bulgarie, il était conducteur de train. C'est ce genre de personnage quand même curieux, un chevalier aussi bien en physique qu'au moral, qui vient de la base, et qui est un intellectuel de haute volée en réalité. Mais bon, et qu'il a su regrouper autour de lui vraiment des cerveaux extraordinaires hein, en Bulgarie. Des professeurs d'université, des... Bon, j'en parlerai plus d'une fois dans
comme
le Libre Journal.
Comme le Libre Journal.
Oui, mais bien sûr, tout à fait, c'est comparable. Mais enfin, c'est pas pour chanter les louanges des professeurs d'université. Hein. Vous savez très bien que ouais. Il n'y a pas que des... Mais par contre, il a un problème. Il a les droits pour éditer Général Gallois, qui a offert ses droits pour le Soleil d'Allah et puis le Sablier du siècle. Il n'a pas l'argent. Le problème est un problème d'argent. Le combat qu'ils ont à subir est pire que celui du Libre Journal. Et déjà, celui du Libre Journal, c'est pas rien, dans la mesure où il est poursuivi par tribunaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un peut aider la diffusion d'idées du Général Gallois, qui est très écouté, très attendu là-bas, et s'il peut aider financièrement.
Et voilà.
Mais alors, je relancerai cet appel. Voilà,
on y reviendra d'abord dans le Libre Journal imprimé, et puis dans cette émission.
C'est essentiel.
Pour résumer, le Général Gallois a fait don de ses droits à Nova Zora pour publier ses livres en Bulgarie. Ce qui manque, c'est le financement pour le papier. Donc, on essaiera de faire une opération de solidarité entre nous. Merci Michel, vous reviendrez. Je vous informe que la semaine prochaine, ce sera le clan de la presse, deuxième clan de la presse, avec Jean Madiran, je le dis dans le désordre, Marie-Camille Gallic, Claude Giraud, Emmanuel Ratier, Jean-Claude Varane, et puis Martin Pelletier, qui viendront parler de l'actualité autour de ces micros. Et je pense faire une grande émission, je le dis pour ceux qui s'étonnent de ne pas l'avoir entendu ce soir, je pense faire une émission un peu longue avec Alexandre Chabanis dans quelques temps pour parler de son projet. Faudra que ce soit pour que vous compreniez vraiment très 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 long, ma petite Victoria.
On fait une longue émission, ce sera bien, comme ça je pourrai comprendre. Et quand inviterez-vous le docteur Plantet? Plusieurs
le demandent,
Plantet
est invité
aussi,
en permanence.
On s'ennuie de lui.
Il vient quand il veut, il le sait, mais en ce moment il a beaucoup de travail et beaucoup d'autres soucis. Malheureusement, il manque beaucoup aussi, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est la vie. Son absence nous manque.
Ici, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge Le Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 juillet 2000 de 18 à 21h, en différé jeudi 6...